With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Je m'appelle Micode, tout simplement. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui savent pas ce que je fais parce que je viens de YouTube. Voilà. C'est pas forcément. Je sais pas comment c'est vu sur Twitch, mais je suis un pauvre YouTuber.
Tout le monde te hait à l'heure actuelle.
Tout le monde me hait. Mais voilà, je m'essaye à l'exercice de Twitch avec ce nouveau concept. Vous l'avez vu, ça s'apparente à ce qu'on peut appeler un talk show, finalement.
Un
podcast. Voilà quoi, un truc où on parle quoi avec des potes. Et voilà, l'idée c'est comment j'ai eu cette idée là en regardant les talk shows qui peuvent exister. Voilà, on va mentionner
on va mentionner
quand même Popcorn tout simplement. Et c'est en regardant Popcorn, vous connaissez
qui
Popcorn
Domain Jou.
Voilà, bon voilà. Et en regardant Popcorn, je me suis dit c'est quand même trop bien ce qu'ils ont réussi à faire.
Ouais.
C'est quand même les boss du game.
Story.
C'est trop dommage qu'il n'y ait pas un truc dans ce style-là pour nous, les passionnés de l'IT, comme on dit ça, de la cybersécurité, tous les sujets dont je traite sur ma chaîne YouTube habituellement. Et je me suis dit, c'est trop dommage, il n'y a pas un truc comme ça, en direct, assez relativement grand public. Hein. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans de la technique, de parler forcément de dev hardcore, etc. Mais voilà, un truc qui puisse parler à tous les passionnés du numérique et de l'IT, des nouvelles technologies. Et pour cette première émission, je vais enfin les présenter quand même. J'ai comme invité, et j'ai la chance d'avoir comme invité.
C'est vrai que c'est une chance.
Hard Disk, voilà. Et Emmanuel Freund.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Est-ce que tout simplement vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas?
Vas-y, commence. Non, vas-y.
Ok. C'est trop d'honneur. Je m'appelle Hard Disk. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Hard Disk où je parle de tech appliquée surtout au cinéma, à l'audiovisuel. Comment ça marche, les effets spéciaux, comment ça marche la réal, les nouveautés un peu cool que tu vas retrouver ou au cinéma ou dans des clips ou dans des séries. Et sur Twitch, Hard Disk Live, où j'ai une revue de presse tech tous les lundis à 18h qui s'appelle Unplugged. Voilà, depuis un petit moment, je fais ma pub.
Nouveau branding.
Bonsoir à tous.
Non, moi, je t'en prie, tu fais bien. Et Emmanuel, je pense que tu peux rapprocher un tout petit peu ton micro.
Ouais.
Tu peux te tirer dessus. Incroyable.
J'avais les mêmes fringues dans cette vidéo, c'est hyper gênant. C'est vrai que je me suis jamais lavé.
Tu ne te laves jamais.
Non.
Et donc, Emmanuel, tu es.
Je vais me décaler un petit peu. Hein.
Très connu, je pense, pour ton aventure précédente. Tu es un entrepreneur, on peut le dire. Tu
ouais.
Es très donc, connu pour avoir monté Shadow.
Qui s'appelle Shadow, effectivement. Et puis là, je relance un deuxième petit projet qui s'appelle Powers.
Tout simplement.
Tout simplement.
On parle pas de petits trucs quand même. Je pense que beaucoup sur Twitch ont entendu parler. Notamment, pour quelle raison? Parce que tu es, je veux pas dire fan, mais tu es assez proche d'énormément de créateurs de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Et ce qui fait que tu as pas mal utilisé ces leviers-là de communication. Je me trompe pas, c'était dans la stratégie de Shadow assez tôt de fonctionner comme ça. Donc je pense que tout le monde connaît Shadow. Mais aujourd'hui, tu n'y es plus. On aura peut-être le temps de revenir sur ces sujets-là. On aura le temps de discuter de
c'est vraiment
de tes
ça que vous
projets.
Avez choisi comme vidéo pour vous montrer. On peut s'en parler deux secondes. La prochaine fois, quand tu m'invites, tu me montres avant. Tu vois, juste
non,
comme
non,
ça.
Non,
tu veux valider les dans les vraies émissions, c'est moi qui choisis.
C'est de la déstabilisation. C'est fait exprès.
Ok.
Non, mais voilà, on aura tout le temps de revenir sur ton nouveau projet qui s'appelle Powers.
Powers.
Avec un Z.
Voilà. Et voilà,
ah,
on aura.
C'est ça.
Exactement.
Là, on voit une petite fille qui fait du yoga. C'est trop mignon.
On aura tout le temps d'en discuter tout à l'heure.
Il y a un dragon à côté. Et un arbre derrière.
Et de l'herbe, non
aussi. Exactement.
Ouais, j'ai l'œil,
c'est déjà beau. Mais bon, ne nous enflammons pas trop sur Powers parce qu'on va avoir le temps d'en discuter en long, en large et en travers. Un petit truc à mentionner avant qu'on se lance dans le vif du sujet. Je vais vous demander un petit peu d'indulgence pour la bonne et simple raison que on est très très nouveau à cet exercice-là. moi, personnellement.
Ça me fait hyper plaisir d'être dans la première. Hein,
mais oui, mais ça. C'est...
Tout le monde se souviendra plus tard que dans une émission tirée du 8, le premier invité était Emmanuel Freund.
Et voilà, il a placé. Non, c'est underscore.
Tiré du 8.
S'il te plaît.
Pardon.
Non, mais voilà, je me suis dit, c'est pour ça que je vous invite, vous. Je me suis dit, pour la première, comme.
Ça me fait réellement très plaisir.
Tout le monde est stressé ici. Je me suis dit, je vais inviter des valeurs sûres. Et Emmanuel, tu sais très bien que moi, je suis ce que tu fais de près. Toi, je sais que tu suis le YouTube Game, Hard Disk, voilà, on est potes depuis très très longtemps. Je me suis dit, il y aura aucun souci, ça, c'est va, easy. Ça va se passer comme sur des roulettes. Underscore, déjà, pourquoi pourquoi ça a pris du temps à se faire? Parce que mine de rien, ça fait depuis... ça fait combien de temps que tu me vois travailler sur ça?
Moi, en fait, j'ai pas envie de parler parce que j'ai la vraie réponse de pourquoi ça a pris du temps et je pense que ça va t'embarrasser énormément.
Non.
En fait, il faut savoir, tant pis, tu sais quoi, je drop les bases. Alors que Nicode est perfectionniste et qu'il a développé un autre truc pour ces émissions qui sont pas encore sortis d'ailleurs. Tu m'as dit ce soir, il y a des trucs qui sont pas activés encore, machin, voilà. Qui sont incroyables. Et à chaque fois, quand t'as une idée, t'es là, genre, je veux que ce soit exactement comme je veux, parfait. Et je t'ai vu parfois dev ici à 21h quand je me cassais du bureau, parce qu'on est dans les mêmes bureaux, du coup, pour contexte. Et j'étais alors, ça va? Et je voyais vraiment les quatre écrans avec un IDE partout, genre, oui, ça va! Juste la librairie, elle est pas à jour sur GitHub, la merde! Genre, c'était incroyable. C'était.
Voilà. Bon. Voilà, ça c'est la vraie raison officielle qui fait que ça a pris un peu de 2 mois. Non, mais il y a une autre raison beaucoup plus terre à terre, sans rentrer dans le tryharding d'émissions Twitch avec du multicam, etc. C'est de ça dont parlait Henri, mais c'est pas encore activé. Voilà, je vous en parlerai une autre fois parce que ça c'est des projets un petit peu rigolos qu'on a, je pense, jamais vu sur le Twitch francophone.
C'est assez impressionnant.
Donc on aura le temps d'en rediscuter. Mais tout simplement, en fait, produire une émission de ce style. C'est pas simple, voilà. Mmh. Et je pense qu'une des différences quand même qu'on peut avoir, c'est que avec d'autres trucs similaires, c'est que tout est fait maison. Voilà, c'est quand même pareil, franchement.
Ouais, moi, je tiens à le préciser. Tu es ta propre prod.
Non, mais je tiens à le préciser parce que mine de rien, c'est on pense que
c'est un taf. C'est étonnant. L'audiovisuel, dirait, bon, ouais, c'est les intermittents du spectacle. Non, il y a des gens qui bossent.
A pas été fait par Webedia là.
Non. C'est, tu vois,
faut pas le
ça,
dire.
On peut dire ce qu'on veut sur eux, tu vois. C'est fou ça. Wow. Non, je rigole. Mais pas vraiment. Mais et non, mais tout ça pour dire que c'est un métier hyper compliqué. Le live en particulier, parce que tu dis l'audiovisuel. Mais moi, j'ai fait de la vidéo YouTube depuis 3-4 ans. Clairement, le live, c'est un autre game en termes de complexité technique pour faire quelque chose d'un petit peu produit, un peu sympa. C'est clairement une galère de ouf. Hein, on va pas se mentir. Et donc, ça me permet d'introduire un truc, c'est que cette idée-là, je l'ai eue avec une entreprise qui s'appelle N26. Est-ce que vous connaissez N26? Je pense.
J'adore N26.
C'est
ma banque préférée. Écoute-moi bien, Michael.
Henri, c'est donc, je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est une néobanque, une banque en ligne, tout simplement. Vous pouvez ouvrir un compte en 8 minutes. Mais ça, c'est un détail, parce que surtout, ce qui était sympa dans ce projet-là, c'est qu'ils étaient là dès le début. Et c'est grâce à eux que c'est possible. Hein, parce que concrètement, là... Je ne vais pas rentrer dans les détails de financement, etc. Mais voilà, il y a eu des chèques. Il y a eu des chèques qui sont partis.
N'hésitez pas dans le chat à demander le Excel.
Voilà, le Excel. Non, mais voilà, tout ça pour dire que monter un truc de ce style, c'est compliqué. On va voir après cette première si ça se passe à la hauteur de nos attentes, qui sont déjà de base le fait d'être en direct est une attente déjà qui est cochée, a priori. Moi, je ne demande pas beaucoup plus, hein. Mais après, si on arrive à faire une émission satisfaisante, intéressante, où vous apprenez des choses, parce que c'est quand même ça, sur ça qu'on était d'accord avec N26, c'était de créer voilà, un espace de d'éducation. Tu vas pouvoir nous parler d'éducation juste après, en plus, c'est parfait. Mais un espace d'éducation voilà, sur l'info pour intéresser un maximum de gens à nos passions, en fait. Parce qu'on trouve que c'est pas encore assez le cas. Un truc que je me suis dit aussi, pourquoi je vous invitais, vous ? Continue à vous saucer un petit peu. Mais pourquoi je vous invite, vous? C'est parce que j'essaye de faire un truc avec cette émission, c'est de essayer de réunir deux mondes, qui est le monde de Internet, Twitch, celui que tous les gens connaissent qui regardent cette émission, et le monde plus professionnel de l'entrepreneuriat, peut-être du dev, peut-être de tous les métiers pro qui sont autour de l'IT. Et je me suis dit, je vais essayer à chaque émission, je vais voir si ça se confirme, hein, j'ai le droit de changer d'avis, mais je vais essayer de prendre un invité de chaque monde, on va dire, et de créer de l'interaction autour de tout ça. D'ailleurs, je me suis dit, sur Twitch, je pense qu'il y a, les gens ne se rendent pas compte, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui ont en fait un bagage en info qu'on ne soupçonne pas, qui ont des formations de dev ou des trucs comme ça. Bon, il y a IPR, tu vois, par exemple. IPR,
très connu voilà. Pour les vidéos avec le trésor public, un vrai plaisir.
Il a totalement une formation en info.
Okay.
Link, IDEV, Sardoche, Clément. Je me suis dit que Clément, ça peut être marrant de l'inviter parce qu'il était dans une école de dev, etc. Moi, j'avais déjà pu discuter avec lui de ça. Mais voilà, je me suis dit, ces personnes ne sont jamais invitées à discuter de leur background un peu technique. Et ici, ce sera l'occasion de le faire. Ici, c'est que des gens. Bon, peut-être pas sur la première, mais au fil du temps, ce sera des gens qui sont intéressés par la technologie. Et puis voilà, ils auront tout le loisir de s'épancher sur ces sujets-là. Ça vous paraît cool comme programme?
T'es un professionnel de l'introduction.
Écoute, c'était un petit peu long. Je suis désolé, je me suis.
Non, mais j'ai bu tes mots.
Non, mais écoute, je voulais que ce soit un peu que nos objectifs soient bien clairs dès le début, dès la première. Je vous remercie aussi forcément N26 parce que ce serait impossible sans ça.
Des cracks.
À l'heure actuelle, vous voyez des petits logos, des trucs comme ça. Il y aura des trucs plus entre guillemets intéressants comme intégration, genre si on a besoin d'un expert sécu, on peut appeler un gars de chez eux. D'un expert, enfin voilà, ce sera
super cool, hein.
Ce sera très très pratique, je pense, pour le contenu éditorial, tout simplement. Qu'est-ce que, tout simplement, je vais commencer avec toi, Henri, qu'est-ce que tu nous mijotes en ce moment? J'ai vu dans la conversation, on a une petite conversation de la capsule,
c'est vrai,
c'est le nom du bureau, et j'ai vu une petite vidéo pas piquée d'hanneton
que tu as récupéré. Ouais, je bosse sur plein de trucs en ce moment, j'ai recruté des gens en ce moment, je me suis dit que c'était parfait en pleine pandémie mondiale, recruter du monde en plus. Je suis très bon entrepreneur, faut le savoir, mais donc bref, voilà, j'ai pris du monde en plus parce que je voulais en fait libérer dans ma production de contenu plus de temps pour faire des trucs qui prennent 3 semaines à faire, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je faisais très peu. J'étais beaucoup dans le roulement de. On faisait 2 vidéos par semaine avant. J'ai rétropédalé à 1 par semaine.
C'est vrai.
Et là, en fait, tu vois, j'ai des gens qui bossent avec moi et qui m'aident et qui travaillent sur des contenus qui prennent 3 semaines à écrire, tu vois, ou à produire. Et donc, j'ai 4 vidéos, à peu près, toujours, qui sont en cours de prod, qui sont des machins longs et compliqués. Sur ma chaîne, on est allé voir récemment une boîte qui a fait des robots caméras.
Je l'ai vu.
Qui
trop
sont
bien.
En gros des.
T'as fait une pub avec.
Ben voilà. Ah, on a eu un retour.
Oui, non, c'est...
C'est ma voix, bonsoir. Mais en gros, voilà, c'est, ça ressemble à ça, et c'est avec ça qu'ils filment. Ils ont fait notamment un défilé de Louis Vuitton il y a quelques semaines avec, et c'est ce genre de contenu, tu vois, que je trouve super cool, qu'on peut pas faire souvent, déjà parce que ça coûte...
Franchement, le rendu final est assez impressionnant.
Ouais, non, mais c'est un truc dingue, ce que tu peux sortir avec. Il y a le rendu final le plus tard dans ma vidéo, je sais pas si on va le voir. Mais voilà, c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire. En fait, j'ai toujours été un peu dans un entre-deux, parce que tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'antagonisme sur YouTube entre les youtubeurs qui font que des trucs quali, quitte à faire une vidéo tous les ans,
ouais,
et les youtubeurs qui font des trucs, ce qu'on a finalement appelé du fit and fun.
Ouais.
Et en fait, moi, je suis retrouvé dans une situation où je suis là, genre, j'aime bien faire les deux.
Oui,
genre, tu vois, et c'est horrible parce que.
Et je pense que c'est un truc à peu près tout le monde. Enfin, je pense qu'au fur et à mesure, via des chemins différents, tout le monde arrive un peu à ce statu quo final qui est que tu peux pas faire que des trucs quali qui prennent 3 mois de préparation.
Et surtout, faire des trucs fit and fun, c'est cool.
Voilà.
Et j'aime bien
et
ça.
Plus, et en plus, c'est pas que du remplissage du tout.
C'est aussi vrai, c'est agréable, tu vois. Et donc, voilà, on est dans un entre-deux où moi, je m'occupe souvent des vidéos un peu comme ça où on va faire intervenir d'autres youtubeurs ou parler, juste raconter une histoire, tu vois. On parlait du petit bonhomme de Mediavision au cinéma, tu vois. Genre, ouais. C'est qui ce mec en fait, tu vois, genre,
d'où vient-il?
01 46 20 0 0 0 1, c'est ancré dans mon crâne, tu vois. Mais c'est qui, c'est quoi cette boîte?
Ouais,
c'est une petite vidéo sympa et tout, et à côté
aussi,
on travaille sur de gros concepts. Donc la vidéo dont tu parles, pour revenir à ça,
ouais,
ça vient de Unreal Engine, qui est un moteur de
j'espère qu'on
vidéo.
Va la voir parce que on a droit à un petit hard disk,
un petit avant-première, ouais,
qui fait des grimaces, voilà, tout simplement. On peut dire les choses.
Mais ils ont sorti un pack qui s'appelle Meta Humans, qui en gros permet de générer des êtres humains qui sont production.
J'adore.
Et en fait, ce qu'on entend par production ready, c'est qu'en gros, c'est des êtres humains virtuels,
ouais,
en 3D, qui sont extrêmement finement modélisés jusqu'au port de la peau, et que tu vas pouvoir utiliser au cinéma, vraiment comme des assets
non,
au
mais
cinéma.
Tu sais que moi, j'ai pensé à un truc. Toutes les chaînes YouTube qui, à l'heure actuelle, je sais pas si vous voyez les lamas fâchés, les trucs qui font du contenu automatisé, 100% demain, ils veulent pas montrer des humains,
ouais,
ces gens, parce que c'est des entreprises qui ont 50 employés, mm-hmm, et donc ils peuvent pas le faire. 100%, ils vont se mettre à utiliser
des influenceurs virtuels.
Et ce sera des influenceurs virtuels.
Et en Asie, ça existe énormément. On a fait un sujet sur les influenceurs virtuels, même dans les anciens, à Tsune Miku, qui est une chanteuse entièrement virtuelle au Japon, tu vois. Et sur le continent asiatique, ça marche beaucoup mieux qu'en Europe ou aux États-Unis.
Ouais.
Ça commence à arriver aux États-Unis un peu. Et c'est vrai que c'est un peu la nouvelle frontière. Ça va être assez marrant, tu vois. Il y a les VTubers en ce moment sur Twitch. Des gens qui font comme ça, qui ont des avatars, qui streament qu'avec leur avatar, tu vois. Et
du
ouais,
coup, les gens se sentent proches de quelqu'un qui n'existe pas, genre, c'est...
Bah après, t'arrives dans les trucs des relations parasociales que t'as avec les créateurs de contenu, et c'est un peu chelou, tu vois, mais je sais pas, c'est marrant en tout cas, moi je le vois du point de vue technologique. Après, l'analyse socio, tu vois, c'est pas de mon niveau, mais là, tu vois, voilà, Unreal sort ça. Oh là là, incroyable cette régie, mais c'est fou!
C'est dingue!
La production! donc, Unreal Engine, voilà, c'est des modèles qui sont production ready, et de voir qu'avec un iPhone et Unreal Engine qui est gratuit, je peux contrôler un modèle qui pourrait être dans Star Wars, quoi, tu vois. C'est assez incroyable.
Toi, tu on parlait un peu de ce qu'on suit sur Twitch et sur YouTube. Tu continues, je sais qu'à une époque tu suivais pas mal. Tu continues à suivre un petit peu l'internet game ou pas trop?
Un peu, beaucoup moins, mais un peu, ouais.
Bah, justement, ça se voit à la taille de tes cernes. Non, mais qu'est-ce qui te...
J'ai pas beaucoup dormi les derniers, voilà. C'est clair.
On va dire quelque chose. Emmanuel est un petit peu fatigué. Mais qu'est-ce qui te tient à vie, justement, Powers? Qu'est-ce que c'est que ce projet merveilleux? Alors, je vais, si je dois très rapidement introduire le sujet, on dirait de loin que c'est un jeu vidéo. Mais, te connaissant, Emmanuel Freund, c'est impossible que tu fasses, que tu arrives dans le game du jeu vidéo et que tu dises je vais faire un nouveau jeu vidéo bien. Non, ça ce n'est pas Emmanuel. Lui il va arriver, il va te dire que on va tout changer, on va réinventer un truc complètement nouveau. Je me trompe?
Je sais pas si, enfin ouais, tu te trompes pas du tout dans le sens là où on fait pas un jeu vidéo. Et c'est assez marrant parce que ce que tu racontes, quand on allait voir des patrons de jeux vidéo pour leur montrer, pour leur dire, pour que je leur raconte un peu ce que j'ai envie de faire. La première réaction des gens, c'est « mais c'est pas comme ça qu'on fait un jeu vidéo, ouais. Là vous faites n'importe quoi ». Et même aujourd'hui, que le jeu est sorti, c'est assez drôle parce que, on va parler après, il est sorti avant-hier,
c'est une alpha, ouais. Oui.
On a sorti un truc un peu dans tous les sens, et c'est très hétérogène, il y a des graphismes qui sont super, super travaillés, ouais. Super approfondis, etc. Des trucs pas du tout. T'as des glitches qui sont, enfin tu vois, si tu le vois dans Assassin's Creed, tout d'un coup t'as ton pied qui est à moitié dans un rocher, t'as tout le monde qui va faire une crise cardiaque et le patron qui va être viré. Et au contraire, nous on utilise ça, on trouve ça génial. On trouve ça génial parce que ça nous donne une dimension de jeu vidéo incroyable. On a fait un jeu, en réalité, et testez-le, hein, mais on a fait un jeu qui normalement prend 3 ans à faire, peut-être 1 an on va dire, ouais. Mais une bonne année avec toute une équipe, on l'a sorti en 4 mois quoi. Un truc en 4 mois.
Avant l'émission, je me suis dit, je vais quand même essayer de le tester. J'ai pas réussi, malheureusement. Je l'ai pas réussi sur Mac, ouais. J'avais un debug de texture, mais je pense que ça a été fixe après. Mais Henri a pu le tester en long. Ouais,
moi, je l'ai poncé.
Intéressant.
Avant qu'on commence à expliquer un petit peu quel est le concept, pourquoi c'est pas simplement un jeu vidéo. Toi, tes premières impressions là sur le chapitre 1 du coup qui est sorti, c'était quoi?
C'est m'a donné des vibes. Je pense que Emmanuel présentera mieux son projet, mais c'est un jeu éducatif. C'est la meilleure façon que tu as de le définir. Je sais pas comment vous le définissez vous en interne.
Ça va être marrant justement de voir comment toi chapitre tu sens.
En gros, moi je l'ai DL tout de suite parce que déjà Emmanuel, je le connais depuis très longtemps et j'adore ce garçon et c'est ce qu'il fait. Et je me suis dit
que t'as 60 ans et qu'il en a 12.
Mais non,
ça a été mon mentor pendant beaucoup d'années.
Une tournure de phrase mauvaise, une.
Depuis l'avocat, en écoute, fait, j'ai suivi chacun de ses gestes.
C'est les grandes gueules ici, d'accord.
Alors, les bicyclables. Non, mais donc pour revenir sur Powers, j'ai trouvé ça vraiment très très cool et en fait, ça m'a donné des vibes tout de suite dès que je me suis connecté, que ce soit au niveau.
Je rappelle que ceci n'est pas un placement produit.
Tu m'as payé grassement, faut quand même le rappeler. Hein. Non, mais dès que je me suis connecté, que ce soit au niveau graphique, que ce soit au niveau même des voix des personnages qui ont été choisis, ça m'a donné des vibes un peu des jeux que moi j'avais vu quand j'étais gamin.
C'est un peu la voix de Brigitte Le Cordier qui fait les voix de Sangoku.
Tu t'es entouré de.
Et de PADG, c'est un peu super cool pour les voix.
Bah non, mais
moi j'étais gros fan.
T'as raison de le dire, mais moi ça m'a donné des vibes très spéciales de jeux éducatifs Rayman que j'avais quand j'étais gamin et que j'avais adoré. Et en fait, il y a un côté un peu comme ça, très agréable, évidemment enfantin, parce que je ne sais pas quelle est la cible exactement en niveau âge. Peut-être que tu auras différents chapitres pour différents âges, mais c'est fait pour les enfants. C'est très mignon. Et la façon dont vous avez intégré...
C'est vrai qu'ils sont forts à la régie. Hein.
Ils sont très, très forts. Hein. ils ont eu leur bac, les mecs. Hein. C'est assez impressionnant. Quoi.
Vous dites « ils », comme s'il y avait plein de gens.
Les 278 personnes que j'ai vues passer,
sont assez balèzes. On va dire quelque chose, c'est que... Il est tout seul, voilà.
Les 40 intermittents du spectacle derrière cet écran.
C'est que, techniquement, nous sommes 4, là, actuellement.
Mais ouais, non, l'intégration de l'apprentissage avec le jeu est hyper maligne. Il y a des mécaniques de gameplay où, en fait, vraiment, tu te rends pas compte que t'es en train de lire un truc que t'apprends. Et, en fait, pour vous expliquer la façon d'apprendre qui est utilisée dans le jeu, en tout cas, la façon dont j'ai ressenti, c'est exactement comme quand j'avais 14 ans et que je lançais World of Warcraft en anglais. Je me rendais pas compte que j'apprenais du vocabulaire de ouf, en fait, tu vois. Et en fait, c'est cette façon que t'as de
ou Minecraft, c'est pareil. Moi, ça m'a fait le même effet.
Voilà, tu vois.
Après avoir pensé à Minecraft, je me suis dit, waouh, en fait.
Je sais ce que c'est qu'un Iron Bucket. Tu vois, mais c'est con. Mais ça marche bien. Et la façon dont c'est fait est hyper smart. Et ouais, j'ai hâte que ça sorte.
On continue juste après sur Powers. Dans le chat, je vois quand ça parle des interactions, etc. Il faut préciser quelque chose, c'est que pour cette première, on a fait un peu le choix de pas trop se concentrer sur le chat et sur les interactions. Tout simplement parce que c'est un exercice un petit peu compliqué. Du coup, c'est un choix délibéré. Ce sera pas le cas dans les prochaines. On mettra en place plein d'autres systèmes de faire pour pouvoir faire des sondages, des trucs comme ça, ou des questions.
Faire venir tous les spectateurs ici d'ailleurs.
Un par un. Okay. Non, mais voilà, vous avez compris l'idée. C'est prévu. Voilà, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour la première. Pour la première, on le fait pas trop. Parce qu'on fait petit à petit, voilà, on va level up. Henri a parlé des nouveautés qu'il y aurait dès peut-être la prochaine ou celle d'après. Mais voilà, ça nous laisse un peu de marge de manœuvre. Pardon, du coup, j'étais un peu interrompu, mais justement, ce que tu disais, c'était intéressant. Tu parlais un petit peu du fait que, sans vraiment que tu t'en aperçoives, ouais, tu avais de
l'information, learning inconscient, voilà, si
l'information
j'étais,
qui entrait, on va dire.
Si j'étais sur Clubhouse, j'aurais utilisé ce terme, tu vois.
Voilà. Et moi, je ça me faisait penser à autre chose, c'est que dans, je sais pas si c'était vos communiqués ou dans les articles que j'avais pu lire, il y avait la notion du fait que c'était assez évolutif en fait, et que tu avais par exemple des mécanismes d'apprentissage automatique ou de l'intelligence artificielle qui faisaient que cette expérience-là d'apprentissage était améliorée du fait de la personnalisation qui se crée au fur et à mesure. Est-ce que je me suis trompé ?
Pas du tout. On va revenir un peu sur la jeunesse du jeu, mais sur le principe, ouais. Ce qu'on lance, alors dans le milieu du jeu vidéo, on pourrait appeler ça une alpha ou même une pré-alpha ou un early access. Enfin, ça dépend en fait le marketing, ce qu'il fait dans le jeu vidéo. Il va te changer le nom plein de fois pour essayer de te vendre un nouveau truc. Ouais. Mais on va utiliser nous un truc un peu de série télévisée aussi, voire de livre. On va appeler ça le premier chapitre. Ouais. Ce qui est un peu tout ça à la fois, une pré-alpha, une alpha, un early access, ouais, mais aussi un début et une histoire bien foutue et dans laquelle finalement il va y avoir des suites et il va y avoir plein d'autres choses qui vont évoluer. Et donc là, le premier chapitre, on voulait faire une demi-heure, 40 minutes de jeu, pour faire l'histoire de A à Z. Et après, tu peux faire plein de quêtes additionnelles, évidemment, et jouer pendant 2-3 heures en plus. Ouais. Bon, on s'est complètement planté. Finalement, on a fait 2 heures de jeu plus 3-4 heures en plus. Donc, c'est 3 fois trop long par rapport à ce qu'on voulait faire.
Toi, tu as pris 5 heures, du coup, c'est ça ?
Alors, en fait, moi, c'est ce que je lui disais avant qu'on commence l'émission, c'est que moi, j'ai joué environ une demi-heure à la quête principale. Et après, comme c'est fait par un copain, je me suis dit, je vais essayer de casser le jeu un maximum, tu vois. Donc, je me suis bloqué out of bounds 45 fois. D'ailleurs, à l'heure actuelle, mon personnage serait encore bloqué en dehors de la map. J'ai ouvert Cheat Engine pour essayer de faire un fly. j'ai fait Nawak, tu vois. Genre, mais c'était marrant, tu vois. J'étais là, genre, c'est quoi les limites du truc, tu vois. Parce que forcément, comme c'est un jeu pour enfants, je vais pas être la cible du truc. Donc, je me suis dit, vas-y, comment ils ont fait. Il y avait un côté un peu. J'avais envie de voir les backstage, tu vois.
Ouais.
Bah, c'est marrant, il y a plein d'adultes qui l'ont fini quand même. Qui l'ont tryhard et qui ont effectivement fini le jeu. Mais oui, dans le principe, c'est de dire qu'il va y avoir une suite au fur et à mesure. D'ailleurs, parce que effectivement, ça va nous permettre d'adapter le jeu en fonction du niveau de chaque enfant, du niveau de chaque personne. C'est-à-dire qu'au départ, tu le fais plus pour des enfants de 6-12 ans. Mais après, tu veux honnêtement faire un monde là où je vais pouvoir apprendre la physique nucléaire, par exemple, ouais, ou l'ordinateur quantique, tu vois. L'idée de base, c'est de dire qu'avec un jeu vidéo, on va pouvoir apprendre. Et on va pouvoir apprendre finalement toutes les matières, tous les trucs qui nous passionnent. Que ça soit de la musique sur une lyre, que ça soit du poney sur glace, ou que ça soit de la physique quantique, en gros.
Donc là, est-ce que tu nous as pas un peu donné ta vision à très très long terme de ce que pourrait être Powers dans longtemps ?
Ouais, c'est même plus... Enfin, c'est une des visions, effectivement. Mm. C'est de dire que d'abord, en fait, l'être humain apprend énormément en s'amusant. Effectivement, une des raisons pour laquelle j'ai lancé Powers, c'est qu'on s'aperçoit que, tu vois, j'avais fait Shadow, une sorte d'ordinateur vachement chouette, hyper tech, dans le cloud, etc. Et j'ai dit, tiens, je vais aller dans l'éducation maintenant. Tout le monde dit, oh. D'une certaine façon, à partir du moment où tu dis, tu vas faire un truc dans l'éducation.
Ah, ouais, c'est marrant, moi ça m'a pas fait cet effet-là vraiment quand t'as.
Putain, il y a plein de gens qui ont.
En fait, je me suis dit, bon, si Emmanuel, après avoir fait Shadow, se lance dans un nouveau truc, et que c'est un jeu vidéo, c'est probablement pour y foutre le bordel.
Mais grave,
voilà.
c'est ce que je me dis aussi.
Honnêtement, le jeu vidéo, moi j'aime bien. Donc,
je te vois pas à la retraite. Je me suis pas dit, ça y est, il se met à la retraite, il fait un jeu vidéo pour enfants. Je me suis pas dit ça.
Mais tu sais, il y a toujours ce principe de où est-ce que tu peux avoir un impact, comment on peut essayer à son niveau de changer un peu le monde qui est autour de nous pour faire un truc un tout petit peu mieux. Ça devrait pas être trop compliqué vu le niveau de l'existant.
Non, c'est vrai, je suis d'accord.
Et tu te dis à ce moment-là, mais là où il y a un vrai problème, là où il y a un vrai truc, c'est dans l'éducation. dans l'éducation, tu vois, on est dans un monde complètement hallucinant, là où depuis 30 ans, il a complètement évolué. Tu parles d'IA tous les jours, tu parles de cybersécurité. Je veux dire, mes parents, tu leur parles de cybersécurité, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ont peur parce qu'il y a le mot sécurité à l'intérieur. Ouais. Mais c'est tout. Il y a tout le monde qui consomme des médias dans tous les sens, qui regarde du Netflix toute la journée, etc. Tout a changé. Pourtant, l'école est restée à peu près la même, d'une certaine façon. L'éducation est restée le même. Ces technologies.
Je suis 100% d'accord. Et
fabuleuse.
On pourra développer notamment sur en ce moment, avec le Covid, la façon dont les cours se passent.
Mais c'est hallucinant.
Il y a des absurdités que je vois, mais ça
mais
n'a
aucun
sens. Mais
parce que les gens sont tout d'un coup obligés de trouver d'autres solutions à cause du Covid qu'ils n'avaient jamais pensé avant. Ouais. Mais d'une certaine façon, l'éducation, qui est le truc en réalité le plus important, c'est-à-dire que si tu veux changer le monde demain, t'es obligé, ça passe
c'est par
là,
comment ouais, c'est le début,
tu apprends aux gens aujourd'hui, quoi, quelque part.
Et c'est un peu comme le moteur de recherche, c'est l'entrée de beaucoup de choses. Quoi.
Exactement. Et ce truc-là, en fait, les super techs, ils vont pas dans ce truc-là parce qu'ils préfèrent faire des fusées pour aller sur Mars ou qu'ils préfèrent faire des moutons électriques ou enfin, tu vois, des trucs dans ce genre. C'est un peu plus cool. Et tu
prédis que ça va changer, ça, ou pas?
Mais grave. Grave, d'abord, parce que, tu vois, quand on est arrivé et qu'on s'est dit, qu'on a regardé et qu'on a dit, putain, il existe aucun jeu vidéo éducatif. Alors, moi, j'ai appris des tas de choses dans tous les jeux vidéo du monde. Hein, et vous aussi, de toute façon, on a poncé à peu près.
Mais c'est d'abord des jeux vidéo avant d'être.
Exactement. C'est-à-dire que tu apprends presque par hasard. Ouais. Tu as appris ce que les mots de vocabulaire dans World of Warcraft, c'est pas leur but, en fait. Je t'ai pas dit, mais c'était pas exactement ça qu'ils voulaient faire, tu vois.
Mais ça a bien marché.
Mais ça a très bien marché. Pareil, apprendre l'électronique dans Minecraft, alors c'était un peu plus le but, mais pas complètement quand même. C'était plus. Ça allait plus dans le gameplay. En fait, le but du jeu. Des jeux vidéo qu'il y a aujourd'hui, il n'est pas éducatif. Même des Animal Crossing ou des trucs, ce n'est pas leur but principal. Ouais. Leur but, c'est de vendre le jeu, effectivement, et que quelque part, le joueur soit le plus addict possible et qu'il reste le plus longtemps, d'une certaine façon. De l'autre côté, tu as les jeux vidéo éducatifs ou ludo-éducatifs.
Qui ont à mourir.
Mais tu te pends, quoi. Ouais. Honnêtement. C'est-à-dire que tu donnes ça même à un enfant de 6 ans.
J'aimais bien mes jeux old school quand j'avais 8 ans. Mais... Je crois qu'il y a eu un âge d'or.
C'est sympa.
Il y a eu Adi,
mais non, parce que, en fait,
Adi, tu pouvais aller sur internet avec Wanadu et écrire un roman en ligne avec des inconnus.
Mais
c'était délire.
Pour moi, la grosse différence, en fait, c'est qu'à l'époque, comme tu dis, pourquoi il y a eu un âge d'or ? C'est parce que si tu comparais aux jeux vidéo qu'il y avait à l'époque, ça se défendait. Tu vois, c'était pas aussi bien, mais ça restait pas mal. Alors qu'aujourd'hui, il y a une évolution quand même énorme sur les autres jeux vidéo en termes de comment.
Il n'y a pas le Beat Saber du e-learning, tu vois.
Il n'y a pas ça.
Exactement. C'est-à-dire que tu te dis, en fait, putain, il y a Adi, ça a 30 ans, quoi, les mecs. 30 ans,
non, dis pas ça.
Non, mais
ça a pas. Non, si, c'est hier soir.
Ouais, c'est ce que tu veux dire. Mais d'une certaine façon, l'informatique, ça n'existait presque pas. Tu vois, le truc a eu un succès phénoménal. Comme tu dis, c'était à peu près au même niveau que les jeux vidéo. Et puis, il n'y avait pas autre chose. Tu te dis qu'après, il y avait beaucoup mieux. Mais en fait, il y a moins bien.
Ouais.
C'est-à-dire que depuis Adi et depuis Adibou, il n'y a rien.
Ils ont raté coche.
Il y a plein d'applications hyper smart pour apprendre les langues, pour apprendre le français, pour apprendre des trucs, c'est Duolingo, des trucs dans
le genre. C'est mon bro Adi, là.
Ouais.
C'est incroyable.
Donc on espère qu'on peut faire un tout petit peu mieux sur le graphisme. Mais voilà, ça fait des bons souvenirs. Mais voilà, il n'y a pas de vrai jeu dont le but c'est d'apprendre. Or, le mécanisme d'apprentissage par le jeu, c'est un truc vieux comme le monde. Tous les animaux, ils apprennent par le jeu. Tu sais, quand ils se courent derrière et essayent de choper leur queue, etc. C'est un truc normal, quoi. Non, ça reste...
Moi, c'est ce que je fais au bureau, personnellement.
Merci. Bon, donc, et ce mécanisme d'apprentissage-là, il n'est pas utilisé dans l'éducation ou très peu. Et quand tu... L'autre truc que j'ai remarqué, c'est quand tu vas dans un jeu vidéo, le truc peut être hyper complexe. Si le jeu t'amuse, tu vas vraiment essayer de te dépasser pour réussir à trouver la solution. Donc d'une certaine façon, tu vas pouvoir apprendre des trucs vraiment complexes si le jeu t'amuse.
Bien sûr, ouais. Mais sans le faire exprès, en fait.
Sans le faire exprès. Donc l'idée, et le principe de base, c'était de se dire, est-ce que c'est possible de faire un jeu qui soit aussi marrant qu'un Fortnite, Zelda, Animal Crossing, Pokémon,
mais
tout ce que tu
mais
veux.
Mais dès la conception, t'es la notion d'apprentissage. Donc, alors, ça commence pour l'instant avec des matières du primaire, en fait. Voilà, mathématiques.
Les langues. Ils te mettent en avant les langues directement aussi.
Ouais. T'as effectivement PADG qui te prononce plein de mots dans des langues. Alors, c'est assez marrant.
Vous faites déjà des private jokes. Je suis très, très vexé.
Non, non, PADG, en fait, c'est le mec qui fait. C'est le mec qui fait les voix de l'aubergine dans Hearthstone.
Oui, ok.
Tu vois, c'est.
Pour être honnête,
ma culture geek,
t'es pas obligé de connaître. Hein, c'est genre, ouais, c'est bon, XBV12, là, tu sais, quand il fait. Ouais.
Ça va. Et du coup, si on reprend un peu la timeline de PowerZ, parce que là, on est déjà dans la vision, etc. Mais ça commence où, en fait, déjà, de base
commence vraiment en. Mars 2020, il y a un an, quoi.
Ouais.
Il y a un an.
T'es encore chez Shadow à ce moment ?
Je suis encore chez Shadow, mais en fait, à ce moment-là, c'est le moment où je décide de laisser tomber.
Ouais. Qu'est-ce qui te fait décider ça chez Shadow ?
En fait, c'était, alors, je ne vais pas rentrer complètement dans les détails.
Mais... peut-être un micro-rappel quand même, même si je pense que vous êtes trois à ne pas savoir ce que c'est Shadow, j'exagère. Mais Shadow, c'est du cloud computing. Je me suis trompé, je me suis fait reprendre mes mains.
Tu te souviens des communiqués de presse ?
Oui.
Incroyable.
Alors qu'il ne faut pas dire cloud gaming. Bon, et du coup, c'était du cloud computing qui permettait d'avoir un PC à distance. Bon, voilà. On ne va pas rentrer dans plus de détails, mais c'était la boîte sur laquelle tu travaillais. Et du coup, il s'est passé quoi ?
Alors, il s'est passé quoi à Shadow ? Donc, Shadow, c'était un projet qui était complètement incroyable. Et il y avait un truc qui me plaisait beaucoup, c'était un projet qu'on avait l'impression de construire tous ensemble, là où, tu sais, on va enfin montrer qu'en France, on est capable de faire une tech qui est capable d'affronter des Google, etc. Et on va changer, encore une fois, c'est toujours le truc un peu des startups, on va changer le monde. Tu vois, même si tu fais un ordinateur, tu vas changer le monde. C'est pas grave, tu fais une clé USB, tu vas changer le monde. Mais bref, on va changer le monde. Et on va faire un ordinateur plus intelligent, c'est-à-dire moins consommateur de ressources. Mmh. On n'est pas obligé d'acheter un ordinateur à 3 000 € quand on est étudiant et qu'on veut juste jouer à des jeux et niquer la planète. Non, on va essayer de trouver des moyens un peu plus intelligents et puis de montrer que finalement tu peux streamer la puissance et que l'ordinateur devient une commodité. Tu n'es pas obligé de venir avec ton ordinateur partout, mais un peu comme une chaise, tu ne viens pas avec ton ordinateur en réunion. Tu peux te connecter n'importe où, sur n'importe quel truc, etc. Donc il y avait un peu cette idée-là. Et puis on a fait rentrer plein de capitaux un peu dans tous les sens. Et très rapidement, il y a eu, deux stratégies dans la boîte. Ouais. 50% de la boîte, puisque quand tu fais rentrer des capitaux, la boîte, elle t'appartient plus.
Ouais.
Tu fais rentrer plein d'argent et donc tu leur donnes un peu de boîte en
partie,
échange.
Quoi,
ouais. Voilà. Et il y avait deux stratégies. Il y avait une stratégie qui était, on va affronter Google et Nvidia et Microsoft en faisant du cloud gaming cette fois plus, avec un outil extrêmement peu cher et en étant compétitif. Et c'est pas grave, on va perdre de l'argent, mais c'est pas grave du tout parce que sur le volume, on va réussir à se rattraper. Ouais. Vu que la techno est complètement dingue, et on va faire un Google-like, on va devenir une grosse boîte, et une stratégie que je défendais qui était plus européenne, qui était se baser avec OVH, avec des partenaires comme ça, et faire un truc un peu plus européen, et vraiment, non pas diriger complètement vers le cloud gaming, mais diriger plus vers du cloud computing, cette fois, avec remplacement d'ordinateur.
Donc il y a eu une divergence un petit peu à un moment de vision, quoi.
Et le problème, alors les deux peuvent marcher, sauf qu'on s'est tapé dessus pendant un an en n'étant pas d'accord, gentiment.
T'as fait du tir à la corde, mais la boîte pendant ce temps-là n'a pas bougé.
Exactement, et la boîte pendant ce temps-là bougeait pas. Donc à un moment, quand au bout d'un moment, je voyais qu'en fait on voulait changer le monde, mais en fait on n'avançait pas du tout, pas une seule seconde, et que finalement c'est plutôt la boîte qui commençait directement à péricliter. C'est un mot hyper dur, ajouter le truc. Et ben dans ce cas-là, je me suis dit, ça sert à rien de continuer, j'arriverai pas à gagner. Et donc j'aurais dit ok.
Un truc qui m'a marqué, moi, c'est quand on était dans nos anciens bureaux avec Hardisk, dans le centre de Paris, c'était des bureaux de Shadow qui nous prêtaient gracieusement. Et je me souviens, il y avait Octave Klaba qui était passé dans le bureau et j'entendais, je crois que vous avez fait un stream tous les deux parce que vous aimiez bien faire des streams récurrents chez Shadow. Et il avait dit un truc qui m'a fait mourir de rire et en même temps, je sais pas, enfin bon, je trouvais ça plein de lucidité, c'est que il avait dit, je me suis rendu compte, en découvrant Shadow, je sais pas, je rapporte peut-être les mots, je les change peut-être un peu, mais je me suis rendu compte que c'est possible de créer une entreprise qui ne gagne pas d'argent pendant très longtemps.
Mais mec,
tu fais une entreprise,
mais évidemment,
le modèle économique ne tient mais pas à l'instant T.
Tu sais qu'il y a des gens dont c'est la carrière. Voilà. Il y a des gens qui vont monter des boîtes toute leur vie, qui ne gagneront jamais pas un rond.
Mais oui, c'est ça.
Et
nous, ça nous paraît presque normal, en fait, parce que toutes les Uber et Tesla, et trucs comme ça, c'est un peu ils font tapis et puis il y a une chose sur 100 que ça passe.
L'important, c'est d'avoir un joli costume et de faire des beaux PowerPoint. C'est
exactement.
Pas d'avoir un produit, et ni donc, même des clients.
Je me suis dit, venant d'Octave Klaba, on le rappelle, c'est pas n'importe qui Octave Klaba, c'est monsieur OVH, quoi. Ouais. OVH qui est une.
C'est OVMEC, comme j'aime bien l'appeler.
C'est OVMEC. OVH qui est une pépite française, entre autres. Voilà, donc c'est quand même une des boîtes stylées en France, on va pas se mentir. Même s'ils ont un SAV de merde, n'est-ce pas, Hardisk ?
Je l'ai même pas lancé ça, c'est complètement gratuit.
Écoute, je mets les choses à ta... Non mais
Octave, c'est un mec c'est quand même un mec vraiment génial et hyper sympa en plus.
Et du coup, venant de lui, je trouvais ça...
Qui a des vraies valeurs et derrière, hyper sympa. Et ce qui est drôle, c'est qu'il disait ça comme un compliment quand il l'a dit. Alors que évidemment c'est moi je l'ai pris comme mais lui il le disait comme un compliment en disant ah putain bien joué
ça fait pas une chute, c'est ouf
et j'essayais juste de faire le contraire moi et effectivement quand tu fais du hardware c'est pas nécessairement une bonne idée de perdre de l'argent à chaque fois surtout qu'on avait un super produit et que il y avait pas de raison qu'on en perde, on pouvait en gagner et faire un truc rentable et qui se construit bien. Bon bref, eux ils sont bons.
Quel homme,
voilà.
Peut-être que j'essaierai de l'inviter. Hein.
Une photo de Laurent Baffy.
je pense que
je suis très sérieux. Une photo de Laurent Baffy en régie.
Tu fais des on dirait Biclo Oli quand il passe dans, sur YouTube.
Ah ouais.
Ils font tout le temps ça. Bon, ça c'était l'affaire Shadow. On va pas rentrer dans les détails.
Donc,
à ce moment-là, tu as l'idée de Powers.
Non, j'ai pas encore l'idée de Powers. Je décide de quitter Shadow. Et là, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Sachant qu'il y a un milliard de trucs à faire et que tout est possible, réellement. D'abord parce que j'ai un peu de chance.
Yes.
Il attendait depuis 20 secondes.
Je vois, hein. J'adore, qu'il était moins concentré j'adore cette régie. Sur la dernière partie, hein. C'était
Lolo. Il y avait un gros plein sur lui, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait?
Lolo, on t'embrasse, bien sûr.
C'était quoi la dernière phrase?
Tu as gagné à Skate Roulette.
Dire quoi?
Lolo.
L'éducation, c'est vachement important.
Non, non. Pas du tout.
C'est pas important, l'éducation, c'est ça? Waouh.
Ouais, donc...
Pardon. Donc c'est pas à ce moment-là où tu as l'idée de Power.
C'est pas à ce moment-là, et à ce moment-là, je commence à me dire, est-ce que j'avais un projet pour faire de la réalité virtuelle, de juste un casque qui est un peu plus puissant, je trouvais un peu plus sympa. J'avais aussi un autre projet là où on s'envoie des trucs à l'intérieur du bras pour calculer directement ta tension, des trucs dangereux, okay, en disant que ça pourrait être assez pour rien de ce... Et à ce moment-là, j'avais aussi deux enfants qui étaient sur le canapé et qui disaient que j'étais leur père.
Et sortez de chez moi. Qui est
en fait,
très drôle.
En fait, ils étaient assez sympas et ils me ressemblaient de loin. Ouais. Et je me suis dit, tiens, bah, comme j'ai un tout petit peu de temps, je vais un peu rattraper le temps perdu parce que je passais effectivement mes jours et mes nuits à Shadow et je vais essayer de leur apprendre 2-3 trucs que je sais faire. Ouais. Donc, je leur ai appris à programmer, à faire des maths. Enfin, tu vois, les 2-3
Deux jours, quoi. 2-3 jours.
Voilà, 2-3 jours en me disant, bah, c'est bon, je suis tellement fort qu'en 2 jours, ils vont. Ben non, en fait, j'ai commencé à chercher des petites apps, des machins et il n'y avait pas grand chose. Et je cherchais un peu plus et je me suis aperçu qu'il y avait 300 000 applications pour faire des petits trucs, mais c'était des apps. C'est-à-dire que même s'il y en a qui étaient vraiment bien foutus, tu vois, d'un côté...
Il n'y avait pas une ambition...
Exactement, il n'y avait pas une ambition tech incroyable. C'est-à-dire que d'un côté, tu avais des jeux vidéo là où tu mettais 3 ans des équipes de 500 personnes, des milliards à l'intérieur, peut-être pas des milliards, mais des dizaines ou des centaines de millions. De l'autre côté... des apps à 300 000 euros max avec 2 personnes qui les codent dans leur coin. J'exagère un peu, mais pas beaucoup, en gros. Et l'effet de ces apps, comme tu dis, c'est un peu des cahiers de vacances améliorés. Mmh. Donc c'est bien pour faire ensuite tes devoirs, mais ça reste des cahiers de vacances améliorés sur écran. Je veux dire,
alors que toi, tu aurais vu un genre l'Oasis de... comment ça s'appelle First...
Du truc VR, là.
Ouais.
Ouais, First World to the Solo End of player. Time. Ready Player One.
Ready Player One.
J'adore le cinéma.
Exactement.
Toi, t'aurais vu plutôt un truc de ce, enfin quoi, de cette envergure-là.
Mais je me suis dit pourquoi tu le fais
pour apprendre.
Un Ready Player One, là où justement tu peux aller. Le jeu vidéo, c'est tellement fort, ça te met dans des situations différentes en une seconde, plein. Je veux dire, c'est le truc fabuleux pour apprendre quand même.
C'est le meilleur.
Et pourquoi c'est pas utilisé? Pourquoi t'as juste 3 étoiles quand tu fais? Je vois pas du tout pourquoi ils font. Ah si, d'accord.
Et oui.
Du coup, ça m'envoie une question. Par contre, parce que vous parlez de Ready Player One, t'as pensé à la VR en tant que médium pour ça ou pas?
Ouais, complètement. On a pensé à...
Merci beaucoup.
C'est terminé.
Merci.
On a pensé. On va y revenir. Okay. Non, mais en vrai, voilà. Donc, tu as cette idée-là de te dire, tiens, j'ai des foutus devant Zelda. Mm. Bah, quand tu les appelles à table, ils ne viennent pas. Et ce n'est pas parce que tu fais des shoots de Bruxelles, ils ne viennent pas tout court, tu vois. Et puis, de l'autre côté, quand tu leur fais une app éducative, etc., et que tu les appelles à table, ils viennent. Et alors, pour Zelda, ils restent 3 heures devant et tout. Je me suis dit, pourquoi on ne peut pas faire un truc là où ils restent 3 heures devant? Et là où ils apprennent des trucs, mais là où le but c'est d'apprendre des trucs. Et en plus, si on pouvait faire ça, est-ce qu'on pourrait pas se faire un truc à la Matrix, là où les... Alors, ça marche pas avec dans tous les domaines, mais là où les enfants apprennent super vite, quoi. Le temps de concentration d'un gamin, il est hyper court. Mmh. Si tu arrives à garder sa concentration pendant même 20 minutes ou une demi-heure sur un truc, t'apprends à une vitesse incroyable. Et on le sait, on voit ce qu'on est capable d'apprendre dans des jeux vidéo. Donc je me dis, si on arrive à faire un truc comme ça, un truc vraiment marrant, ça révolutionne l'éducation. D'une certaine façon.
Si je dois me faire juste l'avocat du diable, honnêtement, je pense que je suis à 99%. Mais juste, il y a une petite truc qui me vient, c'est que dans l'éducation, il y a forcément certaines zones ou certaines choses qui sont impossibles à rendre attrayantes. Tu vois. Ça existe forcément. Tu vois. Est-ce que vraiment tu penses que tu peux tout faire passer en jeu vidéo en mode marrant où tes gamins vont être scotchés devant? Est-ce que tu n'as pas un désavantage compétitif énorme par rapport aux autres jeux vidéo, entre guillemets, juste du fait que tu veux apprendre des choses et qu'il y a forcément un petit peu plus de frein pour un cerveau d'enfant, tu vois?
Je crois.
Je me suis pas exprimé clairement.
Mais... Pour l'instant, et on va voir, on va avancer dans le jeu au fur et à mesure. Pour l'instant, honnêtement, j'ai rien trouvé dans aucune matière, dans aucun truc qui soit compliqué. ou qui rendent le jeu chiant.
Au point
dépend,
de.
Ouais. Alors ça dépend, hein. Tu peux faire un jeu chiant sans mettre de l'éducation à l'intérieur.
C'est
hein.
Très simple.
Et tu peux faire. Mais tu vois, par exemple, tu prends un truc qui est potentiellement hyper rébarbatif, les intégrales. C'est un truc hyper drôle, les intégrales. Tout le monde a appris à bouffer des intégrales en terminale ou en première, on ne sait même pas pourquoi.
Ah, est-ce que tu peux nous en parler d'ailleurs
Bien sûr.
Intégrales.
Et puis vous avez tous
en fait,
oublié les intégrales
non.
En fait.
Bah non.
10 ans après.
C'est quand tu es totalement dans le moment présent en fait. Tu es intégralement là. C'est là, tu vois, je suis en là, je suis en intégrale. Tu vois.
Et la bim.
Là, tu fais une grosse petite pause et tu regardes la caméra.
Mais
tu
as une vraie question, à quoi ça sert les intégrales?
Ouais.
Et il y a très peu de gens après, qui s'en souviennent ou même qui ont compris à quoi servent les intégrales. Pourtant, tout le monde en bouffe pour le bac. Ouais. Voilà, il en faut. C'est bien. Donc, tu pourrais dire
comment
que c'est incroyablement chiant.
Dis-nous, comment vous avez fait pour rendre ce sujet intéressant?
Alors, justement, on apprend les intégrales dans Powers. Non, c'est pas le cas, mais on va. Un jour, on va. En fait, par exemple, tu vois, je me baladais avec un copain, un vieux copain, qui avait 75 ans et qui était un chercheur à l'école normale supérieure et qui était une sorte de mec complètement fou et qui faisait plein d'expériences dans son laboratoire avec de l'azote liquide, avec des trucs. Enfin, pour moi, c'était magique quand j'y allais. J'avais 17 ans, quand j'y allais, c'était complètement magique. Et puis, on allait en vacances deux ou trois fois. Et puis, de temps en temps, tu te baladais dans la rue. Et il me parlait d'un truc. Et je ne comprenais pas. Et il m'engueulait en me disant « Mais tu vois pas que c'est une intégrale, ça, c'est l'accélération de la vitesse. C'est facile. Enfin, c'est pas compliqué. » En fait, il avait intégré comment physiquement dans le monde ça marchait. Ouais. Une intégrale, c'est l'air d'une courbe, c'est quelque part. Ouais. Tu vois. Donc, il y a plein d'endroits là où, effectivement, tu peux l'utiliser de façon pratique. Donc, tu pourrais très bien introduire ça de façon pratique parce que c'est drôle, parce que c'est sympa, parce que c'est pas compliqué quand tu veux juste comprendre si une voiture va plus vite ou moins vite, quand tu veux plus comprendre comment bougent des planètes ou des choses comme ça. Enfin, plein de choses comme ça et aller de plus en plus et complexifier le truc au fur et à mesure.
À part du coup, Cheat Engine, t'as appris des trucs dans ton premier chapitre?
Non, moi, comme je t'ai dit, j'ai fait une demi-heure de quête principale. Donc, en gros, ça passe... Je ne vais pas spoiler non plus ce qui se passe, mais tu arrives, on te présente un peu le premier environnement, ensuite on t'amène vers ta première maison et tout, etc. Mmh. Et en fait, tu passes par à peu près tout ce que tu vas pouvoir voir plus tard. Peut-être pas tout, il y a peut-être des choses que je n'ai pas encore vues, mais on te présente les différentes langues. On te présente, il y a un mini-jeu assez marrant où tu vas changer l'état de l'eau et te rendre compte que si tu gèles de l'eau, tu peux faire un pont et passer dessus. Tu vois, il y a des interactions que c'est assez bien foutu. Et vraiment, honnêtement, tu parlais tout à l'heure des méthodes d'apprentissage et de est-ce que on peut tout apprendre comme ça, quelles sont les limites, tu vois. Moi, vraiment, ce que j'ai ressenti en l'utilisant, c'est que moi, j'ai un rapport très conflictuel avec l'éducation,
ouais.
Extrêmement conflictuel. Toute ma vie, on m'a dit « Ah, tu verras, quand tu seras adulte, tu regretteras un peu tes années d'école et tout ». C'est faux, c'est faux. Avec le recul, je passais un mauvais moment là-bas.
Ouais.
Et en étant adulte, je reconnais que j'ai passé un très mauvais moment là-bas. C'était horrible. J'ai très mal vécu les périodes collège, lycée, même primaire. Tout est horrible. Et j'y rends beaucoup de mal avec la façon qu'on a d'apprendre des choses en fait à l'école. Le concept même de bachotage, de machin, je trouve ça débile.
C'est ce que je voulais aborder tout à l'heure. Je me suis rendu compte que à l'heure actuelle, j'ai l'impression. Hein, j'ai pas énormément d'exemples, mais j'ai l'impression que les profs n'ont pas du tout profité. Peut-être ça, ça va mettre du temps à se faire et ça va se faire peut-être petit à petit, mais les profs n'ont pas du tout profité du changement de, entre guillemets, de paradigme.
Ils peuvent pas. T'as vu l'éducation nationale, ce que c'est, mec? C'est un espèce de gros truc. C'est pire qu'un robot Google.
Un truc tout court, mais je suis plus étudiant, donc je suis pas certain. Mais j'ai l'impression que les profs continuent à refaire leurs cours en direct sur Zoom.
Ouais,
mais 100 fois d'affilée. Tu vois, plutôt que de s'enregistrer devant une caméra avec un bon son, ça ne lag pas, ils peaufinent leur truc avec 10 autres profs pendant une semaine, ils font le meilleur cours possible, ils le condensent en une heure.
Ton biais, c'est que tu as une vision entrepreneuriale du truc. Toi, tu es là, genre, mais c'est simple, on peut streamliner, on peut enregistrer.
Non, mais c'est pas ça.
C'est pas que tu as tort, c'est que c'est pas leur boulot, en fait. Et moi, pour moi, c'est un problème de système. Pour moi, c'est au niveau du ministère de l'Éducation, c'est beaucoup plus haut, tu vois.
Mais en fait, moi, c'est pas forcément une vision entrepreneuriale, c'est juste que je vois ce qui se fait dans des secteurs qui sont plus proches de l'IT, tu vois.
Oui. Bon, quand et justement, cette vision-là.
Non, mais quand les mecs ils font un cours sur le dev ou. Mais même le dev, c'est facile, tu vois. Forcément, les cours de dev en ligne.
Il y a vraiment des profs. Il y a des profs pour le dev, pas pour des trucs, juste pour de la physique, par exemple. Il y en a un qui est passé sur Combini il n'y a pas longtemps pour expliquer justement comment on faisait des cours de façon un peu plus sympa maintenant. Alors, il enseigne la physique quantique. Déjà, c'est un peu cool. Et il t'explique un petit peu comment on le fait de façon sympa et intelligente et comment tu fais des réunions Zoom, comment tu fais des cours sur Zoom de façon plus sympa. Et lui, honnêtement, il est hyper drôle, hyper fort. Donc allez voir la vidéo sur Combini, franchement ça vaut le coup. Mais de l'autre côté, t'as des profs effectivement qui sont complètement largués. Mais ça dépend vraiment des profs. Il y en a plein qui essayent de se réinventer. Et même pour l'éducation nationale, t'imagines, t'as quand même 10 000, 100 000, je sais pas combien de professeurs. Et tu peux pas réellement demander à des gens qui ne sont pas faits pour ça nécessairement, dont c'est pas le boulot, de changer intégralement de comportement. Donc même s'ils veulent faire le mieux possible, c'est extrêmement difficile de faire.
Si t'as passé 15 ans sur une estrade, tu vas pas du jour au lendemain allumer le GH5, prendre ton petit micro.
Mais bien sûr, c'est pas leur métier.
Ouais, c'est pas ton boulot. Exactement.
Voilà, faire ton petit montage première. Non, mais
t'imagines l'éducation nationale pour commencer à faire une formation Twitch tous les professeurs pour expliquer comment tu es à l'aise devant une caméra tout seul et comme devant.
Faire le formulaire CERFA pour la formation, il faut peut-être 6-7 ans.
C'est compliqué et c'est pas le bon public non plus. Donc, ouais, il y en a plein qui sont adaptés super bien. Mais malheureusement, c'est pas eux qui peuvent inventer les outils pour le faire. Et justement, c'est les entrepreneurs qui vont venir, qui doivent venir à la rescousse d'une certaine façon et inventer de nouveaux outils pour aider le parascolaire, l'éducation derrière pour avancer.
Donc, l'éducation numérique, ça va être le bordel dans les prochaines années. Investissez chez Powers.
La conclusion.
C'est ça. Mais ça
rejoint, ça fond, voilà notre PayPal.
Il y a un autre truc, tu vois, je parlais de ce qu'on va apprendre. Je pense que l'éducation, c'est vraiment un truc qu'on doit faire tous ensemble. Mmh. Et d'une certaine façon, l'éducation, c'est un truc qui commence, avec comment tu utilises les nouvelles technologies. Ici, il y a plein de gens qui connaissent à fond les jeux vidéo, qui savent ce que c'est que s'amuser quelque part et qui ont vécu les mêmes expériences que toi à l'école. D'une certaine façon, on doit utiliser ça pour savoir comment on fait un jeu cool. Là, quand on dit qu'on est en alpha, qu'on est en early access, etc., ça veut... je vois que tu attends que je finisse.
Non, mais je t'en prie, je veux pas te
Quand on dit qu'on est en early access et tout, ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment dans quelle direction on va. Parce que c'est un truc, tu vois, si c'est une boîte qui décide de comment tu vas éduquer les gens.
C'est hyper intelligent de faire ça. Mais après, c'est des concepts qu'on retrouve de plus en plus maintenant. L'idée de sortir un produit à peu près fonctionnel le plus tôt possible et de récupérer du feedback, c'est ce que vous essayez de faire, en fait.
Récupérer du feedback et récupérer des idées aussi sur comment tu vas faire le truc. Mmh. À la fin, nous, ce qu'on voudra faire, c'est une plateforme là où tout le monde va pouvoir montrer comment ils développent des choses, comment ils mettent leurs cours, comment ils ont envie de présenter les mathématiques, le français, n'importe quelle, ou la cuisine, n'importe quelle passion, quelque part à d'autres personnes et le faire dans un vrai jeu vidéo. Mais ça, pour ça, on a besoin de tout le monde pour le construire.
Et bah, le message est donné. J'ai noté un autre petit truc. Un fait
il a un conducteur, juste. On s'arrête là-dessus. Il a un conducteur papier.
Papier.
Le mec est une speakerine.
J'ai un petit dernier détail que j'ai noté, c'est que dans les investisseurs, t'as Octave Klabat. Donc visiblement, même si il a pas participé à l'aventure Shadow, vous êtes bien entendu. Je me trompe pas, c'est ça?
Ouais.
Donc ça veut dire que vous êtes copains toujours?
Bah oui.
Et vous êtes copains ou pas?
Non, mais on peut se dire,
on est copains aussi. C'est ça qui marche bien.
Parce que les gens peuvent se dire, bah, comme le deal OVH, c'est pas fait. Peut-être qu'en fait, ils se sont brouillés, etc. Mais non, tout va bien.
Tout va bien sur plein de points et tout va moins bien sur d'autres. Mais avec Octave, c'est un mec que j'adore et évidemment, dès que j'ai eu cette idée, je l'ai présenté et je lui ai demandé d'investir parce que je pense que pour moi, c'est important qu'il soit dans l'aventure.
Et il est pas tout seul. J'ai vu aussi des noms que je connais. Il y a Amixem et Domingo. Je crois qu'il avait déjà participé de façon à Shadow, qui avait déjà pressé. Mais voilà, tu les as rembarqués dans le bateau.
Mais en fait, il y a plein de gens. Quand j'ai commencé ça, je n'y connaissais pas grand-chose en éducation. Oui. Mais l'avantage, c'est que je n'y connaissais pas grand-chose en jeux vidéo non plus. Donc ça semblait assez naturel, tu vois, de faire un jeu vidéo éducatif. Je n'y connaissais rien sur les deux trucs.
Ah, quel homme, mais quel bel homme quand même.
La photo est incroyable.
Et donc, je suis allé voir des gens qui connaissaient un peu. Donc dans l'éducation, on est allé voir des gens un peu comme Hachette, par exemple. Hachette, c'est aussi un des investisseurs de la boîte, c'est un peu classe.
Je l'ai pas noté celui-là, t'as remarqué. Hein.
Ouais,
c'est juste que j'ai vu des noms rigolos et je les ai notés.
Mikos, il a vu Amixem.
Après, j'ai vu Hachette, j'ai fait bon.
Mais voilà, mais c'était important pour nous d'avoir une validation de. On est allé voir en fait les gens de l'éducation parce qu'on s'est dit putain, c'est pas possible que ça existe pas. Il y a un truc qui est pas normal, ou dans le monde ça doit exister, on l'a pas vu, quelque part c'est pas possible qu'il y ait rien comme jeu vidéo éducatif. Donc on est allé voir les gens de l'éducation, on leur a demandé est-ce que c'est possible d'apprendre par le jeu, ou il y a un truc qu'on n'a pas vu qui fait que c'est pas possible. Et ils ont dit non et ils ont investi dans la boîte. Puis après on est allé voir des gens du jeu vidéo pour leur dire est-ce que vous pensez qu'il y a une raison pour laquelle ce serait pas marrant un jeu là où on apprend des trucs, enfin on se gourre quelque part probablement. Et ils ont dit non, ils ont investi aussi. Donc il y a des patrons de jeux vidéo qui sont avec nous pour vérifier.
Tout le monde est oublié ce segment.
Et puis, justement, il y a des influenceurs parce que.
Pourquoi les influenceurs alors?
Alors, Il y a deux raisons. D'abord parce qu'encore une fois, enfin il y a trois raisons. La première, c'est que je t'aime bien.
Qui sont pleins d'argent.
C'est vrai.
Non, non, c'est
pas
ça. Pas.
En plus, ça m'étonne qu'ils soient les plus gros.
On veut faire un truc marrant. Ouais. On veut faire un truc qui a du sens. Et c'est, enfin tu vois, les mecs savent un peu comment tu, ce que c'est qu'un bon jeu, comment ça marche, ce qui peut être cool, ce qui peut être pas cool. Et Domingo, par exemple, je le vois assez souvent. Il est, enfin c'est un mec que je trouve hyper smart et qui a eu et dans Shadow.
Qui va avoir une vision.
Des super bonnes idées sur comment développer le truc, sur ce qu'il faudrait faire, sur où est-ce qu'on pourrait aller, sur, enfin voilà.
Je pense que honnêtement, c'est pas commun honnêtement de demander conseil à des très jeunes.
C'est hyper smart en fait.
Du game internet. Je pense que t'as pas énormément de collègues ou d'alter ego dans l'entrepreneuriat qui font ça à l'heure actuelle.
Bah, c'est une erreur.
Parce que t'es peut-être aussi un fan de la première, du coup, des streamers, etc. Et du coup, tu te le permets, alors qu'eux, ils ne le découvrent pas.
Et effectivement, et d'ailleurs, c'est marrant, quand j'en ai parlé à Amixem, il m'avait donné...
Les pires photos.
Ouais, c'est sympa. Il m'avait donné une idée super bonne en disant... Dès le départ, ok, tu fais un jeu pour les 6-12 ans, il faut que ça plaise aux adultes. Ouais. Il faut que nous, on puisse y jouer. D'abord parce que ça veut dire que nous, on va le streamer et que ça va être cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'affronter avec d'autres streamers, ça va être très sympa. Ensuite, si tu veux un truc qui plaît, il ne faut pas prendre les enfants pour des imbéciles. Il faut arrêter le truc pour, tu vois, avec un soleil qui tourne et puis les 3 étoiles.
Si ça pas troll le MMORPG.
Si ça plaît un peu à... Il y a plein de gens qui sont, en fait, trans-âge, qui vont plaire à tout le monde. Comme, je sais pas, tu prends Animal Crossing, ça plaît aux 8 ans et aux 35 ans. Tu prends Shrek ou La Reine des Neiges, par exemple, ça plaît énormément.
Honnêtement, moi, j'ai vu les premiers visuels, je ne demande qu'à jouer.
Ben, j'espère bien que tu vas jouer et que tu me diras ce que t'en penses.
Je vous propose un petit format complètement unique en fait et jamais vu sur des émissions de ce type. Hein. C'est une petite revue de presse. On suit, je pense, un peu tous les actus IT. Mais voilà, j'ai trouvé des petits trucs rigolos. Notamment la dernière va vous étonner. Non mais c'est vrai en plus. Mais bon, ça fait très YouTube.
Tu devrais appeler comme ça ce segment.
La dernière va vous étonner. J'avoue.
Mais ouais. Voilà, de rien. Enfin, je suis un peu un marketeur.
Écoute,
ouais.
Je t'embauche. un truc qui date de seulement ce matin. Je sais pas si vous avez installé l'appli Signal. En fait, toi, je sais que tu l'as installé. Est-ce que tu l'as l'application Signal?
Évidemment.
Évidemment. Moi, comme tous les techos, on a milité un max pour que tout le monde aille là-dessus. Au moment opportun où WhatsApp faisait des trucs chelous.
C'est bien, tu avais une balle dans le pied quand même.
Ouais.
C'était beau ça.
C'était
si tout le monde se barrait de notre service,
voilà, c'est ça.
C'est pas incroyable.
Allez, on va essayer.
Et il se trouve qu'en ce moment, il y a des grosses campagnes de phishing. Je sais pas si vous en avez reçu. Des petits SMS signés.
Tous les jours, mec.
Mais sur Signal. Depuis, ce qui peut paraître étrange.
Non, Signal, j'ai pas reçu.
Ouais. Bah, en gros, t'as plein de. Depuis ce matin, t'as plein. Je sais pas si vous en avez eu. Mais t'as plein de messages qui sont envoyés, qui sont de la part soi-disant d'Amazon.
Mais le message pue la merde, ils sont mauvais, c'est
non,
fou
mais
quoi.
Voilà,
ça pourrait être genre votre commande machin et tu serais là genre oh non j'ai commandé un truc là, c'est genre votre abonnement récompense iPhone 12 pour interrogation genre putain les gars il y a 3 neurones c'est quoi vrai. C'est incroyable.
Tu pourrais être un coach en arnaque.
Mec ils sont mauvais, c'est un truc de ouf.
Non mais voilà c'est, ça tombe depuis ce matin, il y en a partout, moi perso j'en ai reçu pas mal déjà. Et c'est assez rigolo de voir les réactions parce que, enfin, rigolo et triste un peu parce que t'as tout le monde là qui dit ah bon, eh bah Signal,
c'est pas de l'info,
ah bah super, ouais. Hein, c'était sécurisé, je reçois les phishing, bravo. Donc ça n'a aucun rapport, bien entendu, parce que Signal, quand on dit que Signal est sécurisé, c'est au niveau du chiffrement bout en bout en fait, de l'envoi des messages, de les appels, tout ça qui est chiffré. Mais s'il y a des gens qui envoient des messages à des numéros au hasard, bah ils peuvent pas faire grand chose. Je pense qu'ils vont pouvoir faire des choses quand même. Puisque ils vont pouvoir faire de la détection de spamming de messages, etc. Et pouvoir mettre des filtres de type IP et tout. Je pense que ça va arriver. Mais voilà, ne vous inquiétez pas si vous avez reçu des petits phishing du Signal.
Et allez réclamer votre iPhone.
Voilà, vous pouvez
immédiatement.
Tester. Vous pouvez tester, mais à un moment, on vous demande votre carte bleue. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Je sais qu'il y a. Moi, j'ai eu un peu de mal à faire passer mes proches sur Signal, mais. Pas tant que ça parce qu'ils ont l'habitude de mes sujets de prédilection. Vous avez des potes qui sont sur Signal, toi je sais que t'as nous.
Moi je suis en phase, et ben, pourtant j'étais absolument pas sensible à ces arguments-là il y a encore quelques mois.
Ouais.
Je suis en phase de dégafamisation totale.
Ah ouais
mais ça, partout, surtout.
Mais c'est hyper intéressant de voir le pour les gens qui s'intéressent un peu à ces sujets depuis hyper longtemps et qui ont un peu tout essayé. Je pense qu'on est beaucoup ici à être le relou de service dans la famille, etc. Qui veut changer l'application ou voilà.
Maman, utilise Slackware, c'est très
s'il
important.
Te plaît. Voilà. Non mais on est un peu tous le relou de quelqu'un finalement. Et c'est hyper. Moi je trouve ça intéressant justement de savoir comment toi qui il y a 6 mois tu t'en foutais complètement de ces sujets-là, de vie privée, de dépendance à des GAFAM.
En fait, si tu veux.
Pourquoi maintenant ça t'intéresse?
Parce que déjà. Ce qui fait que ça me bloquait avant, c'est que souvent c'est des gens qui sont ou dans les communes un peu IT ou libristes, tu vois, et il n'y a pas de considération de l'utilisateur final. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, prends par exemple un logiciel que je trouve aujourd'hui génial, mais qui était encore horrible il y a un an, Blender, ouais. qui est un logiciel 3D gratuit, ils ont refait l'interface, et maintenant c'est vraiment utilisable, tu vois. Mm-hmm. Mais le souci, c'est que souvent, des gens vont te pointer vers un outil qui est libre, open source, et ils vont te dire, tiens, regarde, c'est l'alternative, c'est génial.
C'est exactement la même chose.
Voilà, toi, tu l'ouvres, t'as l'impression de voir le livre d'or d'Aborotel dans les années 90, tu vois. et t'es là, genre, bah gros, c'est non, en fait, tu vois. Et les mecs, ils font, oh, faut juste faire un effort. Et en fait, c'est là l'erreur. Ouais. C'est que t'es pas censé faire un effort pour le logiciel si c'est un outil. Il est censé s'adapter à toi, tu vois.
C'est juste si tu veux convaincre les autres 90% de normies, il va falloir faire comme Signal ou comme Blender, c'est faire des interfaces.
Voilà quoi. Travailler l'user final. Mais du coup, ce qui m'a convaincu, c'est pas du tout un truc de privacy et tout, parce que j'étais pas d'accord avec cet argument. C'est juste que c'était relou de switcher sur des trucs pourris, tu vois. Et ce qui m'a convaincu, c'est que récemment, j'ai eu des problèmes avec les réseaux sociaux, mais des problèmes techniques, rien à voir avec. Et j'essaie de contacter les supports.
Oui.
Et je me suis rendu compte à quel point les supports techniques.
De quoi tu parles ?
D'Instagram notamment.
Ils n'existent pas.
Il n'y a pas en fait. Il y a des pages dead préfaites et c'est tout. Et sinon, tu es obligé de faire comme au Moyen-Âge, de regarder chez tes potes plus connus qui a un contact avec le roi soleil là, pour dire messire, s'il vous plaît, l'application ne marche pas. Tu vois, genre, horrible. Et en fait, je me suis dit. Je suis en train de mettre tous mes œufs dans le panier de gens qui ne me respectent pas.
Ouais.
Et en fait, j'ai un abonnement entreprise Google pour ma boîte, j'ai machin. Et en fait, ces gens-là, le jour où j'ai un problème. Donc je me suis dit, en fait, fuck. C'est pas que.
J'ose les mots.
C'est surtout que. Enfin voilà, je paye un abonnement et tout. En fait, c'est juste respectez-moi. Offrez-moi un support, un truc. On est censé être. Je sais que c'est un peu idéaliste, mais partenaire dans cette relation. Que je vous paye pour un service et tout. Et en fait, t'as l'impression que.
Régulièrement.
T'as l'impression que tu les emmerdes à exister, en fait, tu vois. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais voir. Qu'est-ce que je peux auto-héberger et je suis en train vraiment. Je suis dans cette logique en ce moment.
Je pense que ce serait intéressant de voir. Parce que moi j'ai une approche où. J'essaye toujours, tu vois, notamment quand j'en parle dans ma vidéo, etc., j'essaie toujours de rester un petit peu réaliste, tu vois, parce que la réalité, c'est que tu peux faire très bien un Excel avec des équivalents à tous les produits qui existent. Maintenant, il faut être réaliste à certains niveaux. Je prends un exemple hyper basique, mais moteur de recherche. Moi, il y a des recherches que je dois faire, par exemple, qui sont d'un truc hyper niché pour du développement ou un truc comme ça. Juste, t'as des résultats qui n'existent que dans un seul moteur de recherche, que chez Google, quoi.
Mais dans ce cas-là, moi, ce que tu
donc fais, moi je fais les deux, tu vois, j'essaie, en général, je me débrouille pour switcher quand il y a besoin, etc. Mais oui, tu peux faire la feuille Excel avec des équivalents, mais en fait c'est pas réaliste. Donc moi j'ai cette démarche-là d'essayer de mettre en avant des produits quand ils sont à une phase de maturité vraiment. Et comme tu dis, un Blender ou là un Signal, là pardon, mais Signal c'est littéralement un clone de Messenger.
Ouais, tu vois, il manque quelques features un peu rigolotes, mais en vrai c'est feature complete, quoi, c'est très bien.
Toi, au niveau de. Est-ce que tu développes une conscience au niveau du respect de la vie privée ou tu essayes dans ta boîte de ne pas utiliser G Suite ou les services Google? T'es comment à ce niveau? Tu t'en fous complètement et t'es en mode efficacité et puis on verra.
Ah non, moi je pense que les GAFA c'est le mal. Alors pas de leur faute, hein. c'est dû à la façon dont le capitalisme fonctionne et tout ça. Réellement, c'est-à-dire que c'est
zéro à 100.
C'est des sociétés qui sont plus contrôlées en fait. dont le seul but, c'est de gagner de l'argent d'une certaine façon. Et il y a tellement de gens, il y a tellement d'actionnaires de choses comme ça que même le patron ou les gens comme ça peuvent pas vraiment décider un peu de ce qu'ils vont faire et de comment ils vont
c'est
faire.
C'est vrai ça.
Tu vois, j'avais. Alors c'était marrant, je vais le placer un peu parce que c'était chouette. J'étais à l'Elysée à un moment pour discuter de comment on va rendre la planète plus verte.
Le fameux passage à l'Elysée.
C'était incroyable, je l'ai vu mettre une chemise. Non, mais j'étais là, non, genre merde.
J'ai mis une chemise ?
Non, je crois pas.
Si, non, non, j'ai pas
moi, je me souviens du moment dans les
seul
bureaux.
Qui était pas en chemise, je crois.
Ah, mais oui, où t'avais fait des essais.
Non, mais ouais, c'était pas possible.
Je me souviens dans les bureaux de Shadow, mettre une chemise, c'est genre. Et les gens qui m'expliquent, genre, ah, ben il va l'éliger, c'est genre, oh merde, wow. C'est le jour J.
Non, mais tu vois, il y avait la vice-présidente d'Apple qui était là. Ouais. Il y avait le patron de d'HP qui était là aussi. Il y avait Jack Dorsey, c'était un peu cool aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit.
Monsieur Twitter, hein,
pour voilà. Il y avait. Et dans cette réunion-là, on essaye de savoir comment on fait des choses, comment on fait un truc pour que les entreprises deviennent plus écologiques. Et il y a quelqu'un, un peu moi, hein, qui dit bah, ça serait bien que vous ne sortiez pas un téléphone tous les ans, par exemple, ouais. Messieurs Apple, juste pour voir, parce qu'on n'a pas toujours besoin d'un truc plus fort et mieux, juste qu'on peut essayer de reconditionner des anciens. Ouais,
excuse-moi, j'ai des vues à faire, en fait. Donc, ouais. T'es sympa, oui, mais non, en fait.
Désolé.
Le YouTube Tech en PLS.
Non, mais voilà, tu vois, si tu fais un téléphone, rien que un smartphone qui est alimenté par le cloud, n'importe quoi, dont la puissance peut modifier. Tu peux
au hasard, faire, hein, complètement.
Complètement au hasard, t'as plein de façons de faire une tech un peu plus intelligente et plus... Et ils te disent, enfin, il y a un vrai problème quand même. Évidemment, il y a plein de gens qui l'achètent, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il y a plein de gens qui l'achètent, qu'en parlent, qu'ils vendent, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et le monde fonctionne vachement comme ça. C'est-à-dire que les GAFA, qui sont des gens potentiellement très bien, enfin, tu
mais
vois...
qui sont le mal.
Non, mais la façon dont elles sont constituées rend les choses très difficiles.
Bien sûr.
Donc effectivement, avoir une conscience technologique, la développer, c'est indispensable pour tout le monde.
Et une fois que tu l'as, ta conscience écologique, comment, là, par exemple, toi, très concrètement, comment tu la mets en application, par exemple, sur ton... On parlait, moi, je disais que j'étais obligé de continuer à utiliser Google parfois. J'ai plein d'exemples comme ça. Chose. Parfois, c'est par flemme aussi, hein, je vais pas me mentir. Parfois, j'utilise des trucs et je sais que je pourrais faire l'effort de switch. Mais toi, tu as quelle démarche à ce niveau? T'arrives, t'es content de ton autorégulation, de ta façon de gérer ça?
Non, tu peux pas vivre sans ces produits-là de toute façon. Enfin oui, je suis passé à Signal il y a 2 ans, un truc dans ce genre. Je suis revenu sur WhatsApp parce que honnêtement l'interface a été dure à cette époque-là. Maintenant ils ont fait énormément de progrès, donc c'est cool. Clairement. Donc tu vois, tu fais des sauts régulièrement en essayant de regarder, bon ok, c'est chiant. Mais je suis prêt à le faire, ou non, c'est trop chiant et je vais revenir dans les trucs des GAFA parce que, quand même, entre Gmail ou Outlook, bon, tu vois, tu vas pas non plus utiliser ta propre ménagerie qui était sur.
Auto-hébergé. Sur,
ouais, exactement, sur ton logiciel libre. Je dis ça, pas, mais.
On pourrait le faire, hein, potentiellement.
On pourrait, mais c'est pas. Enfin, tu vois, il y a quand même des. Ils ont des masses d'expériences, effectivement, dans l'UI, dans l'UX, dans plein de choses comme ça, qui font que le produit, effectivement, exactement comme tu dis. Bah, il est plus facile.
Bah, la stratégie Signal, c'était de copier. Et puis voilà, faut pas s'emmerder. Hein, franchement, pourquoi on va pas faire attention à ne pas réutiliser ce qui est utile.
Regarde les stories, mec. Hein. Franchement.
Mais bon, il y a une vraie possibilité de ne pas l'utiliser quand même. Il faut faire l'effort de temps en temps. Et moi, comment je fais? Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je crée Powers. Je me dis que dans l'éducation, l'avantage, c'est qu'ils ne sont pas encore là.
Ouais.
Donc, si on peut faire pour éviter qu'il y ait un Amazon qui fasse un truc pour calculer des maths, c'est pas mal.
Il faut essayer d'être là avant eux.
Exactement.
Une deuxième petite information que j'ai vu passer qui était cool. Alors, bon, j'ai vu que l'éditeur de Fortnite continue dans sa lutte contre Apple. On reste un peu, c'est marrant parce qu'on reste un petit peu dans les mêmes cirques. Et là, ils ont fait une demande d'aide à la Commission européenne. Donc, il y a déjà des trucs légaux qui sont aux États-Unis, en Australie, machin, au Royaume-Uni. Et là, ça continue en Europe. Où concrètement, ils essayent de faire condamner Apple pour de l'antitrust, pour des pratiques anticoncurrentielles. Et on va voir s'ils réussissent, mais on suit ça de très très près parce que c'est hyper important et parce que c'est le dossier a l'air assez crédible. Je me souviens, Shadow était sur iOS et Android.
Ouais.
T'avais eu des histoires comme ça, toi, où on t'obligeait à passer, les gens étaient obligés de s'inscrire via l'appli et du coup on te prenait 30%.
Ouais, bien sûr. Bah, c'est les politiques d'Apple. Ouais. De toute façon, donc t'es.
Donc toi, sur les utilisateurs d'iPhone et d'Android, tu perdais 30%.
Plus Android n'en est pas le problème, mais pour iPhone, effectivement, comme tu pouvais utiliser tout le logiciel et que tu voulais le faire sur iPhone, si tu pouvais acheter le produit sur l'iPhone, tu payais 30% à Apple. Ce qui est un peu la politique normale, et c'est eux qui ont tous les téléphones, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas.
Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas, mais du coup, là, les arguments... toi, du coup, dans cette lutte Fortnite-Apple, tu dirais qu'il n'y a pas forcément d'arguments qui justifieraient des pratiques non concurrentielles?
Je ne suis pas complètement dans cette lutte-là, mais je veux dire, Epic, ce n'est pas le petit pauvre du coin de la rue non plus.
Évidemment. Hein. Bah après,
faut pas complètement déconner. Ils ne sont pas défenseurs de... Enfin,
de nos libertés.
Leur branding est très fort, là-dessus.
Mais bien sûr qu'ils vont utiliser tout ça. Non, mais il ne faut pas être naïf du tout.
C'est quand même une grosse bataille de géants qui est marrante, mais qui est intéressante. Mais si Apple descend son prix de 30% à 10%, c'est chouette aussi, effectivement. De toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, ça va se...
Après, les arguments avancés, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre. On ne peut pas installer un autre store sur iOS. Je pense que c'est principalement ça le truc. C'est-à-dire
qu'ils ont fait un produit que tout le monde achète et c'est eux qui dirigent ce qu'on fait dessus. C'est pas de chance.
Qu'ils utilisent leur position dominante sur un marché pour grappiller, pour essayer d'en gagner un autre, puis un autre, puis un autre. Ce qui fait que c'est... notamment les affaires comme ça ressemble aux affaires Internet Explorer où ils sont fait remonter. Donc c'est qu'il y a potentiellement des ça peut fonctionner. Enfin, on suit
très
ça.
Bien si ça fonctionne. Hein.
On suit ça de très près. J'ai vu quoi d'autre ? J'ai vu. Ah, ça c'est ma petite dernière info la plus conséquente.
Est-ce qu'elle va m'étonner ?
Elle va t'étonner. Écoute bien ce titre. Ce qu'une photo de AOC Alexandria en bikini nous apprend sur l'avenir inquiétant de l'IA. Alors là, vous êtes bouche bée.
Ok.
Non mais c'est du lourd, c'est hyper intéressant en vrai. Ce n'est pas du tout, on n'est pas sur Pure People.
Ah oui, je viens de voir le...
Non, là, en gros, c'est une étude qui est sortie.
C'est pas chance.
Où ils ont, comment expliquer vous voyez, dans un moteur de recherche, quand vous commencez à taper une requête, vous avez une autocomplétion qui se fait. Ce qui fait qu'ils essaient de prédire les 10 prochains résultats les plus probables après ce que vous avez fait. Ça, souvent, ils utilisent ce qu'on appelle des réseaux de neurones récurrents. Donc, en gros, en fonction d'une séquence de choses, donc là, c'est des mots, on essaye de prédire la suite. Et là, ils ont essayé de faire ça avec des images. Donc, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné le début d'une image, la moitié d'une image, à un algorithme d'apprentissage automatique. De machine learning et ils ont regardé, ils lui ont demandé d'essayer de compléter l'image en fait. Donc à partir de toutes les images d'internet, enfin d'une énorme base de données, on te donne la moitié d'une image et t'essaies de me deviner ce que pourrait être l'autre moitié. Et ils se sont rendu compte, ce qui est en fait pas si étonnant mais quand même assez marrant, que sur le corps d'une femme, il y a genre plus de 50% de chances qu'ils complètent avec une photo de bikini ou un truc comme ça, tu vois.
Et déjà, sur les 20 000 pétaoctets de photos qu'il y a sur Internet, il y en a sûrement 17 qui sont du porn, déjà de base.
Exactement.
Donc, ça dépend du sample, en fait, tu vois. Mais c'est les biais dans l'IA, la vraie question.
C'est
hyper intéressant.
Mais justement, j'en viens au débat plus global. Parce que, après, du coup, si tu essayes avec le début, les jambes, par exemple, d'un monsieur, ça finit avec un costard-cravate, tu vois, une fois sur deux. Du coup, ça pose, comme tu le disais, la question des biais, parce que l'IA, c'est pas l'intelligence artificielle. Bon, on est plus ou moins tous un peu tech ici. C'est pas vraiment une intelligence au fond. C'est complètement dicté. Son comportement est complètement dicté par la base de données que tu lui fournis en entrée, par les data. Vous faites de l'IA aussi. Je sais pas si vous en faites déjà ou si vous allez en faire
dans la suite du développement.
Bon. Et ben, du coup, tu peux me confirmer ça qu'en fait c'est Le comportement est énormément, pas biaisé, mais dépend complètement de ce que tu lui donnes en fait, comme source d'apprentissage.
Elle apprend sur ce que tu lui donnes, de toute façon, sur ce dont elle se nourrit. On l'a vu déjà plein de fois sur des IA qui, par exemple, étaient entraînées à parler sur les réseaux sociaux et qui très rapidement commençaient à faire des choses horribles et à devenir raciste, antisémite complètement.
C'est un délire.
Sur Twitter, je crois. Je pense que tu peux. Il faut rapprocher un tout petit peu ton micro, à mon avis. Mais tu peux te tirer dessus sur le. Du coup, ça pose cette question-là du biais en intelligence artificielle, qui fait que aujourd'hui, tu peux te retrouver avec des dérives d'IA complètement délirantes, juste parce que en fait, ta base de données originale, elle est pas fiable. Et on a vu ça aussi dans l'emploi. On a vu ça dans les trucs juridiques, etc. Où en fait, tu te rends compte que certains candidats sont plus ou moins sélectionnés. Parce qu'en fait, c'est pas que l'IA est mauvaise, c'est qu'elle de façon le fonctionnement intrinsèque d'une intelligence artificielle, c'est de répliquer les données qu'on lui donne et donc la vie et donc les biais qu'il y a
dans la vie.
C'est un peu au fond pourquoi tout le monde se a un petit peu peur de ça et du fait que l'intelligence artificielle peut avoir d'énormes dérives et tout. Mais au fond, c'est que l'IA joue un peu le rôle de miroir en fait. Qui nous permet aussi d'avoir des informations sur certaines choses étranges qui peuvent se passer. Enfin, bref, je trouve ça très intéressant.
Écoute, tu vois, ça m'a étonné.
Ah, je savais. et le titre, valait le coup. Pour conclure cette petite émission, tu m'as dit, Emmanuel, que tu n'en avais pas, mais je propose quand même de faire un petit tour des recommandations. comme c'est l'usage. Ça peut être l'occasion de vous présenter soit des trucs culturels qu'on a bien aimés, soit un logiciel ou une application ou une chaîne YouTube pas connue ou très connue d'ailleurs, on s'en fout complètement. Et voilà. Ça vous chauffe ?
Hyper chaud.
Est-ce que tu as un petit truc ?
J'ai un petit truc, un mi-code. Non, moi en ce moment, donc, je me suis acheté un casque de VR récemment, Oculus Quest 2.
Il m'arrive de d'entrer inopinément chez
dans le bureau et de me voir en mode
les zombies. Je le vois dans un autre monde complètement intranspirant.
Ah, les jeunes, ils sont vraiment transportés aujourd'hui, quoi. C'est... mais ouais, non, et donc je rattrape un peu mon retard parce que même si toi tu sais, mais j'ai bossé dans la VR avant de faire YouTube.
Je savais pas. Dis-moi, c'est vrai?
Oui. Je gérais une boîte de post-production de films en 360. On faisait des pubs, on faisait plein de trucs. Donc, j'avais tous les casques à l'époque, voilà, en 2015, tu vois. Et donc j'avais arrêté un peu, j'ai pas retouché à la VR depuis. Et donc j'ai acheté un Quest 2 et j'ai rattrapé un peu mon retard. Et notamment, je suis tombé en kiff absolu. Je sais que peut-être plein de gens y ont déjà touché, de Fly Felix.
Je l'ai pas encore fait.
Vraiment,
tu m'as vendu du rêve, donc je pense que je vais me déterrer.
Et vraiment, j'ai kiffé des trucs qui sont débiles, mais genre la gestion de l'inventaire. J'ai passé 10 minutes à mettre des trucs dans mon sac. C'est fou. En fait, c'est vraiment, t'es tellement dedans. En fait, tu mets des trucs dans ton dos comme ça, ouais. La manette vibre, et en fait, t'as une façon de suite de chercher dans l'environnement des trucs, de les mettre dans ton sac à dos.
Le truc qui m'a fasciné avec le Quest, c'est parce incroyable. Que du coup, un peu en même temps, je pense, on s'est auto-motivé à prendre le Quest 2. Le truc qui m'a fasciné, c'était un jeu en 0G, où tu n'as pas de gravité. Ils ont essayé de créer, vraiment une autre forme de jeu en équipe, tu vois.
Ouais.
Un peu comme, je sais pas, je vais pas faire de parallèle, mais
attends, c'est un jeu de foot, non ?
Non, c'est pas un jeu de foot. Ça ne ressemble à rien. Ouais. En fait, c'est compliqué à expliquer parce que ils ont essayé de se dire. Bon, là, imaginons, on est dans la station spatiale du futur de 2050. Où dedans on peut construire ce qu'on veut et on veut faire un jeu en équipe. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois ? Qu'est-ce qu'on invente avec ces nouvelles règles ? Et ils arrivent avec un truc, avec un résultat assez ouf. Ouais, mais franchement.
Ah bah c'est de ce jeu, je parle de jeu de foot en 0G, voilà, ça m'a fait penser à ça.
Ah oui, c'est pas un ballon, c'est pour ça que
je. Oui, mais la régie me préfère en fait.
Oui, donc, mais on parle de la même chose. C'est juste que c'est pas un jeu de foot, c'est plutôt l'ultimate.
Frisbee,
voilà.
Ouais.
Avec les mains, oui, non, pas du tout un jeu de foot en fait.
Bah, il y a De Gaulle, ça va. Mbappé.
Voilà, exactement, ça ressemble à ça. Et c'était, mais fascinant quoi. Juste les sensations.
J'ai un pote proche qui est très très bon, ouais. Qui m'a initié, c'est assez incroyable.
Bah voilà, t'as des mecs qui trahirent ce truc là. Ça, honnêtement, t'y joues pas 3 heures d'affilée.
J'ai envie de vomir au bout d'un minute.
Voilà, t'y joues pas 3 heures d'affilée, ouais. Mais t'as vraiment, ça te fait vraiment les sensations de gravité, enfin de pas de gravité, de 0G. Qui sont vraiment très très perturbantes. Et du coup, t'as testé ça, t'as testé Alix.
Alix, qui est vraiment, c'est une œuvre d'art, quoi.
Et donc, ton coup de cœur, ça aurait été le Quest dans l'ensemble ?
C'est le Quest, et particulièrement Alix. Et je pense que si vous avez un Quest, ou que si vous voulez en acheter un, ou n'importe quel autre casque de VR, d'ailleurs, ouais. Vraiment, Half-Life Alix, testez-le, parce que c'est une autre façon de faire du jeu en VR. Ils ont vraiment, ils ont dev le jeu pendant extrêmement longtemps, ça se sent.
Est-ce qu'on peut pas dire que, jusqu'à présent, tout le monde a un peu fait de la VR en mode, c'est une petite feature en plus d'un jeu vidéo ?
Ouais, et là, en fait, ils ont vraiment pensé...
Et on continue
pensé,
à faire
fait,
des boutons, comment, on continue exactement. À faire des interfaces...
Ils y ont pensé en mode comment est-ce qu'on interagit avec un monde virtuel, tu vois. Mmh. Et tous les micro-détails sont parfaits, en fait. C'est incroyable.
Voilà. Très, très fort. Moi, ma petite reco, c'est une reco beaucoup, mais alors beaucoup plus deep, un peu nerd, tech, voilà. Ça s'appelle, alors je sais pas exactement comment ça se produit, mais ça s'appelle N8N. Je crois que ça se dit Nine ou Nain.
Extendable Workflow Automation.
Est-ce que vous connaissez Zapier ?
Oui.
Zapier. Zapier, c'est un outil de no-code. L'idée étant de permettre à tous les gens qui ne sont pas développeurs, ou même à des développeurs qui veulent potentiellement gagner du temps, au lieu d'écrire des scripts ou d'apprendre mm-hmm. tout simplement des langages de programmation, tu peux simplement utiliser des blocs de code, enfin des blocs tout simplement, et les faire, créer un peu à une interface à la Scratch, c'est pour les enfants. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu dans ce style. L'idée étant de pouvoir créer tes automatisations toi-même, un peu comme IFTTT, mais en un cran au-dessus en termes de complexité. Et ils ont des intégrations avec tous les systèmes. Donc c'est ça qui peut faire que, par exemple, si tu as un nouvel abonné sur ton Twitch, tu peux le lier à tes lampes Philips Hue pour qu'elles clignotent. Tu peux faire tomber des bulles et faire en sorte que ça tweet un truc. Enfin, tu vois, tu peux aller très très loin.
Une sorte de blueprint dans Unreal Engine, genre...
Voilà, exactement. Ouais. Alors, je suis passé, en fait, à expliquer le truc avec un truc plus dur que le truc de
ouais, même. C'est complètement con ce que je me
dis. Mais en gros,
mais
c'est
là,
ça.
Je comprends, tu vois.
Mais du coup,
c'est bon, voilà. Donc, c'est ça le concept. Le problème de ces services un peu de no-code, qui donc sont censés permettre à tout le monde d'arrêter de faire du code, même si c'est génial le code, mais bon, c'est pas grave. C'est que, le problème de ça, c'est que du coup, ils contrôlent tout, du début jusqu'à la fin. Donc, ça fait que tu as une expérience qui est super cool. On en revient un peu au même débat que tout à l'heure.
C'est ouf, hein.
Mais tout est lié. Mais le problème, c'est que comme ils contrôlent tout, eh ben, ils contrôlent aussi ta carte bleue. Ce qui fait qu'au lieu de te faire payer, Zapier, au lieu de te faire payer le prix d'un serveur de 5€ par mois, eh bien, ils te font payer à l'action. C'est-à-dire qu'un truc qui...
Oh, la douille.
Mais oui, c'est-à-dire que si tu... C'est-à-dire
c'est
que,
trop smart.
Mais oui, mais c'est
ils doivent faire des couilles en or.
C'est du génie. C'est-à-dire que, par exemple, si tu fais un... Moi, j'avais fait une petite automatisation où un formulaire était lié à mon truc de mail. Et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle entrée, ça crée un nouvel utilisateur. Et ça peut aller très très vite. Tu vois, ça peut faire 3000, 4000, 5000.
Les gars, ils sont avec les dropshippers à Dubaï. Là. C'est incroyable.
Exactement. Et le truc, c'est que, en fait, en tant que développeur, tu vois, moi je regarde ça, je me dis, mais ils se foutent de la gueule du monde. Parce que ça, en coût processeur, c'est rien. Tu vois, ils envoient 2 requêtes et c'est tout. Quoi. C'est vraiment. Ça leur coûte rien. Donc pour eux, c'est génial. Mais pour nous, c'est vachement nul. Et donc, je me suis dit, c'est quand même dommage parce que là, on se retrouve avec un truc où soit tu mets les mains dans le cambouis, tu devs, tu fais toi-même tes scripts, tu prends un petit serveur chez toi ou chez OVH, tiens, on parle d'OVH. Soit tu as le monde merveilleux du no-code, mais où t'es pieds et poings liés.
Et c'est foutu.
Demain, si la boîte il change un truc, tu peux pas du tout récupérer tes automatisations. Ils te font payer une blinde pour rien du tout. Et je me suis dit, il n'y a pas des gens qui ont travaillé sur un outil open source. Et la réponse, c'est toujours.
Oui. L'interface.
non, même pas. La réponse est oui.
Ah bon.
L'interface est bien. Non, ok, ça c'est peut-être l'exception. L'interface est vraiment excellente. Et en gros, c'est pas un clone de Zapier, mais ça remplit à peu près les mêmes fonctions. Et c'est impressionnant à quel point c'est vraiment bien foutu. Et la grosse différence, c'est que c'est auto-hébergé. Donc en gros, c'est comme un Zapier que tu mets dans ta poche. Quoi. Ou alors, si tu as un NAS, tu le mets sur ton NAS. Si tu as un ordi que tu veux faire tourner un peu tout le temps, tu le mets sur ton ordi. Si tu as un serveur que tu veux acheter, qui va te coûter 3 balles par mois, tu peux faire ça. Voilà. Et surtout, ça te permet un petit peu plus de latitude. En plus, si tu es comme moi et que tu aimes bien, avoir l'option, au moins, c'est pas obligé de le faire, mais avoir l'option d'écrire un peu de code, au moins, voilà, il y a marqué là Extendable. Ça veut dire que c'est cool, tout simplement. Bon, c'était vraiment un peu nerd hein, comme recours, mais comme ça, vous avez voilà, des trucs différents.
Ouais, c'est vraiment intéressant.
Tu m'as dit que t'en avais pas, ce qui n'est pas grave.
Que dans dernièrement, j'ai fait un jeu un peu sympa.
Ouais.
Qui s'appelle, je me souviens plus du titre exact, mais je crois que c'est There Is No Game.
Ok.
C'est un point and click, je conseille, c'est hyper drôle.
There Is No Game,
ouais.
C'est ça.
Tout le but du jeu, c'est le programme qui essaye de te dire qu'il n'y a pas de jeu.
D'accord.
Et tu dois lui dire qu'il y a un jeu, en fait.
C'est hyper fort.
Non mais honnêtement, c'est fait par un studio français. C'est à mourir de rire.
Ok. Trop bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'honnêtement, on touche à la fin de cette première émission.
Voilà, c'est ça. C'est trop vrai.
Ah mais ça me dit quelque chose.
Très fort.
Ça me dit quelque chose.
Bravo la régie. Les 25 personnes sont hyper fortes.
On change le chiffre à chaque fois.
Non mais voilà, est-ce que vous avez apprécié cette première émission?
Ouais, c'était déjà j'apprécie ta présence dans un premier temps.
Ouais, mais franchement, c'était très sympa déjà d'accepter de venir parce que on peut se le dire. C'est pas comme si vous étiez invité à un truc qui existe déjà, etc. Donc vous prenez un peu le pari de comment ça va se passer.
T'es mon cheval, je parie sur toi, Micode.
Donc voilà, je pense que ça s'est plutôt pas mal passé. On va voir, on va peut-être faire un petit bilan technique à la fin, voir si tout était bon. Comme je vous l'ai dit pendant l'émission, au niveau des interactions, etc., vous avez vu, on n'a pas le chat ici. Moi, je l'aurai ensuite, et puis même on fera plein de systèmes pour pouvoir créer plus d'interactions, parce que c'est l'avantage de Twitch, et donc forcément, il faut en profiter, sinon c'est dommage. Mais voilà, on met tout ça petit à petit en place. Soyez indulgents avec nous. Donnez-nous vos retours, même si on ne peut pas lire maintenant tout de suite, je les lirai avec assiduité après le live. Et puis voilà, où est-ce qu'on peut vous suivre, Henri? On te suit où?
YouTube.com/harddisk, Instagram.com/harddisk. Non, ma chaîne YouTube.
Globalement, il est en /harddisk.
Ouais, /harddisk, partout.
Où est-ce qu'on peut suivre l'actu de Emmanuel et l'actu de Powers?
Et bien, powers.tech. Et puis sur Twitter, sur Insta, sur n'importe quoi.
Super. Et vous pouvez vous follow cette chaîne, tout simplement. Les prochains. Alors, eh oui, important ça comme info. j'oublie, peut-être j'aurais dû le dire au début.
Et au marché, le hasard.
peut-être j'aurais dû le dire au début, mais au niveau de la récurrence, a priori.
Ah oui.
Oui, important ça comme info. A priori, pour l'instant, on partirait sur du 2 fois par mois, donc une fois toutes les 2 semaines. Et l'idée étant, honnêtement, on va voir avec les retours. Moi, je n'ai aucune info de comment ça s'est passé là. Mais si ça s'est plutôt bien passé, qu'on n'a pas trop de travail à faire, qu'on ne doit pas tout recommencer à zéro globalement, on va vite, mais vraiment très vite, je pense, passer sur un format hebdomadaire. C'est pas, faut voir avec quelques autres personnes. Donc, je ne veux pas vous le confirmer là maintenant tout de suite, mais ça ne m'étonnerait pas que ça arrive, parce que bon, mon objectif, c'est qu'on ait un petit rendez-vous. Ou peut-être que je pourrais revenir dans le futur, nous donner des nouvelles de Powers. Hardisk, j'en parle même pas, tu es juste à côté.
Donc je serai derrière le canapé, mec.
C'est extrêmement simple de te faire venir. Donc voilà, pour l'instant, une fois toutes les 2 semaines, et au fur et à mesure, on va essayer de mettre la cadence, de peut-être de recruter du monde pour m'aider, pour que je ne décède pas. Et nous, on se dit à très bientôt.
Bah, merci. À bientôt.
C'était cool. Cimer.
Salut tout le monde.
Salut.
Bonne soirée.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.